Service après-vente de la F1.
Bonjour à tous et bienvenue sur la Dartosphère pour un nouveau numéro du Dars Autocritique. Sauf que, les temps changent, ce n'est plus le Dars Autocritique, mais c'est le service après-vente de la F1. Alors me direz-vous, qu'y a-t-il de nouveau? Eh bah, ben, pas grand-chose, sauf notre ami Shinji qui nous rejoint. Rendez-vous quasiment obligatoire maintenant. Bonjour Shinji.
Bonjour.
Comment vas-tu Shinji?
Je vais bien.
J'adore cette voix de Shinji. Alors Shinji, petit retour sur le Grand Prix de Singapour, qui se déroule donc à...
Singapour.
Oh, et c'est une course...
De nuit? De ville?
Oui, voilà, c'est bien. Tu pourrais faire qui veut gagner des millions, c'est chouette. Alors, sur cette course urbaine qui s'est déroulée il y a exactement 10 jours,
ouais, à peu près.
Parce que... On est un petit peu des grosses feignasses et qu'on met du temps à faire le service après-vente de la F1.
Tu vois, là,
là, on est synchrone.
Voilà.
On fera un making-of pour vous expliquer comment s'est fait ce magnifique générique. Une course urbaine, la troisième de la saison. Quelques petites infos dessus, Shinji? Non, Shinji n'a pas d'informations sur la course urbaine, la troisième de la saison.
Mais si, j'en ai.
Ah, tu me rassures.
Je t'ai fait peur, hein.
Ah, la pétoche que j'ai eue, là.
Donc, troisième course urbaine de la saison, piste de 5 km. C'est quand même moyen haute,
c'est,
hein. C'est long, hein. 5 km.
Ouais, ouais.
23 virages.
Ce qui est, je crois que c'est un record en Formule 1 cette saison.
Ah ouais, ça aussi c'est pas mal. Alors,
même si certains regretteront que ce sont des virages quasiment identiques tout le temps. Il n'y a pas de grande courbe, il n'y a pas de...
C'est pas super technique, mais voilà. c'est une piste urbaine, quoi. Donc,
voilà.
On trace là où il y a des rues.
Même si Bernie Ecclestone aurait souhaité qu'on puisse tracer en dehors des rues, hein, dans nos circuits urbains.
Allez, allons détruire un ou deux immeubles pour faire une piste. Donc, concernant les vitesses, hein,
ouais.
La moyenne de la course était 175 km/h avec une Vmax... de 290-300 km/h.
Vmax réalisé par qui?
Par Kimi.
Ah.
Il a fait le meilleur tour.
Ah voilà.
C'est en 1,45.
Si seulement ça pouvait rapporter des points ce truc-là.
Eh ouais. Alors 1,45 c'est pas 1 seconde 45 parce que là ça serait vraiment très rapide.
Voilà.
Mais 1 minute 45.
Alors si vous avez l'impression que Shinji nous prend pour des cons, oui.
Oui.
Ouais, c'est vrai que c'est un tour de circuit particulièrement long.
Bah, c'est surtout l'équivalent de Spa.
Oui, voilà. Et puis qu'on se rappelle qu'on nous avait quand même dit faut réduire la taille des circuits pour un petit peu homogénéiser le championnat. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un Grand Prix qui soit presque 2 heures.
Ah oui, là...
L'un des suspens de la course, d'ailleurs.
Ah oui.
Surtout pour les commentateurs de TF1 qui se disaient « Waouh, vais-je faire des heures supplémentaires ?»
S'il y avait eu de la pluie, ça aurait atteint les 2 heures max.
Ouais, voilà.
Là, il y a eu... un peu de safety car, ça les a atteints, enfin, de très très peu.
Ça a fait 2 heures tout rond.
Voilà, 2 heures tout rond. En temps normal, on va dire, sans doute que ça va être vers les 1h50, à peu près.
Voilà.
Donc, d'autres choses sur le circuit. C'est un circuit bosselé.
Ouais.
Ça aussi, c'est typique des circuits urbains, comme c'est pas un revêtement spécifique pour de la course automobile. Là, c'est pas bosselé. C'est hyper bosselé.
Et d'ailleurs, il fallait voir l'état des pilotes, ne serait-ce qu'aux qualifications, et plus en course, quand on a vu Trulli abandonner, on a compris vraiment que c'était un circuit très exigeant. Et d'ailleurs, Lewis Hamilton avait bien signalé, ce qui en a peut-être choqué certains, que Singapour, c'était deux fois Monaco.
Deux fois Monaco, oui.
Et c'est vrai que sans les montées de Monaco, ça reste un circuit extrêmement exigeant et je pense fatigant pour eux.
On a vu plusieurs fois pendant la course les fonds plats vraiment toucher le sol avec des étincelles.
Quel plaisir de retrouver les étincelles à l'arrière d'une Formule 1.
Ah oui.
C'était... moi, j'ai beaucoup aimé, voilà.
Alors, il y a quand même eu quelques points noirs sur la piste.
Oui, bon, oh, quelques points noirs seulement.
Ouais. Mais bon, c'était la première année, ça va sans doute beaucoup évoluer. Il y a d'abord la chicane 10.
La fameuse chicane 10 que personne n'avait vu venir.
C'est-à-dire que aucun pilote n'a aimé. Même les gens de la sécurité de la F1 n'ont pas aimé.
Oui.
Pour vous dire. C'est-à-dire que c'était une sorte de chicane artificielle au milieu d'un virage, avec des espèces de petits, je sais pas comment dire, des
bourlets, ouais, c'est des espèces de bourlets.
bourlets, mais des bourlets qui faisaient bien 10 cm de
Ouais,
hauteur.
voilà. Et que même quand il est raboté, ça restait quand même quelque chose de terrible. Et c'est vrai que c'est un virage qui est assez compliqué parce que ça reste quand même un gros virage assez rapide.
Ouais.
Et ils avaient envie de réduire la vitesse. C'était peut-être pas la meilleure manière de le faire.
Là, c'était radical, hein.
Voilà, peut-être que justement créer une vraie chicane dans le circuit, mais une vraie chicane à cet endroit-là, plutôt que de bricoler une chicane comme ça aurait peut-être été mieux.
T'avais le choix entre ralentir et casser ta suspension, donc.
Et c'est surtout c'est que ça posait au final, et la transition, ça posait au final le problème des échappatoires, c'est surtout un virage où la petite
Parce que
erreur
c'est vrai que
vous
circuit
conduit dans le
urbain,
mur.
voilà, on va vite dans le mur. Il y avait quelques échappatoires, et là, ils étaient vraiment pas très larges. C'est-à-dire qu'en règle générale, les échappatoires, quand les voitures vont dedans, ils sont capables quand même de faire un demi-tour. Et là, c'était quand même beaucoup plus dur que d'habitude.
On a même eu le droit à une magnifique image de Felipe Massa. Je
C'est
crois que c'est le
incroyable.
vendredi.
Ouais.
Felipe Massa qui a quand même réussi, pourtant dans une assez large jaune d'échappatoire, a quand même réussi à foirer magistralement un 360. Il l'a commencé, puis hop, il s'est arrêté en cours de route, il a calé.
C'est-à-dire qu'on le voit qui commence le 360, il avance un tout petit peu, il fait 1 ou 2 mètres, et ça bloque, quoi, parce qu'il sait que s'il part en 360, il a plus de voiture.
Voilà.
Et donc, il a dû aller comme une sur la piste. Alors, l'autre
Mais là.
problème, c'était aussi les accès.
Oui.
C'est-à-dire que quand tu plantais ta voiture, c'est pas comme à Monaco où il y a des grues partout, ou dans les 3 minutes, la voiture, tu la vois en train de voler, suspendue à la grue. Là, non. C'était vraiment. Fallait attendre 5-6 minutes pour
Et
voir
y
la
avait
voiture
d'ailleurs.
se faire dégager.
Il y avait d'ailleurs quelque chose de très rigolo et en même temps de dramatique, c'était de voir un pilote qui devait attendre qu'un commissaire se précipite derrière les grillages pour lui ouvrir une petite trappe dans les grillages pour que le pilote puisse rentrer. Et encore, là ça va, c'était pas un gros pilote, mais un Montoya ou un
Ah bah non.
Barrichello, c'est pas sûr qu'il passe. Hein. Faut peut-être revenir quelques secondes sur le fait marquant de ce Grand Prix, c'est que c'était un Grand Prix nocturne.
Nocturne, voilà.
Un Grand Prix dont on peut quand même attacher la paternité à Bernie Ecclestone. Pour une fois, soyons gentils avec lui, on n'arrête pas de lui taper sur le dos, qu'il faut bien que de temps en temps on aide le bossu.
C'est
Hein.
vrai.
Pour rappeler un petit peu, le Grand Prix de Singapour, enfin Singapour,
Ouais.
voulait recevoir un Grand Prix, parce qu'à l'époque
Depuis
où la...
19 ans.
De voilà, et
dix-neuf ans.
C'était devenu un projet plus important depuis que la Malaisie avait reçu un Grand Prix à Kuala Lumpur. La Malaisie qui avait justement demandé un Grand Prix pour développer son aéroport, enfin toute sa zone aéroportuaire.
À Kuala Lumpur.
Ce qui a marché et ce qui embête plutôt Singapour. Donc Singapour avait relancé un projet de Grand Prix urbain, mais vraiment urbain pour le coup. Un projet qui n'avait pas forcément toute l'attention qui nécessitait, jusqu'à ce que Mr. Bernie ait cette excellente idée de nous faire un Grand Prix
De
nocturne.
nuit.
Et donc effectivement, Singapour, qui est prête à tout, hein, s'est dit, ouais, voilà, on va saisir la chance d'être un Grand Prix historique, on va faire un Grand Prix de nuit.
Parce qu'il y a de la concurrence sur la zone, hein. Il y a la Malaisie, il y a
Et la Malaisie.
l'Australie qui est pas très loin, il y a d'autres grands prix asiatiques plus au nord.
Voilà, et puis il y a la Corée qui devrait arriver en Formule 1, il y a l'Inde qui devrait arriver en Formule 1, donc c'est vrai que il faut maintenant c'est des pays où il faut mériter sa place et le Grand Prix nocturne était une bonne occasion de mériter sa place.
Et ça va influencer les futurs grands prix.
Oui.
Car en Australie, Bernie a menacé d'enlever le grand prix si ça ne passait pas de nuit. Bon, il y a eu un arrangement. La Malaisie, ils sont intéressés pour organiser le grand prix de nuit. On parle du Japon.
On parle même de
Enfin,
Valence.
oui.
Ce qui, à
Ou
limite,
alors.
serait pas nécessairement un mal qu'il se passe de nuit.
Oui.
Avec un peu de chance, il y aura une panne de courant, ça introduira un petit peu d'action.
Alors, visiblement, celui qui pourrait être le plus aussi de nuit, c'est Istanbul.
Ouais, ça c'était un projet de relativement longue date.
Voilà. Puis aussi pour une autre raison, Bahreïn. Là, en fait, c'est pas une question de décalage horaire, c'est que, bien évidemment, comme on est dans un pays musulmans, le dimanche c'est travaillé, et donc s'ils le font de nuit, les gens de Bahreïn pourront voir le Grand Prix.
Et vous avez vu, on apprend des trucs, même moi j'apprends des trucs. C'est incroyable.
Et voilà. Alors,
Shinji est là, merci Shinji de nous avoir rejoints.
Voilà. Mais pour un Grand Prix européen, si c'est Istanbul et pas un autre, c'est parce qu'ils savent bien qu'en Europe, si tu commences déjà, bon, déjà mettre un Grand Prix, c'est compliqué. Alors si en plus la nuit.
Mais à 20h.
Voilà.
Tu vas vraiment faire chier les TF1.
Voilà. Et les Verts.
Et les Verts. Écolos européens. Voilà. Ah, ça, les écolos, en ce moment, qu'est-ce qu'ils peuvent nous tomber dessus? Mais plus particulièrement sur, concernant un Grand Prix nocturne, c'est bien sûr une nouveauté au niveau du spectacle, mais c'est aussi une nouveauté pour la Formule 1, qui inclut énormément de paramètres nouveaux pour les équipes, ne serait-ce que par la baisse des températures. Quoi qu'on a vu qu'à Singapour, il faisait quand même 35 degrés et presque 90% d'humidité, donc à la limite, ça ne les changeait pas trop.
Non.
Moi, personnellement, c'était une de mes inquiétudes avant le Grand Prix. C'était effectivement la température. Est-ce qu'il n'y a pas faire trop froid? Et comme on sait que les Ferrari ne sont pas forcément, contrairement à Kimi Raikkonen, très passionnés des températures fraîches, que les voitures ne vont pas très bien sur piste fraîche. Donc, c'était une petite inquiétude. Inquiétude qui a rapidement été levée. Mais quels étaient donc les... comme on rame. Mais quelles étaient donc les autres inquiétudes sur ce Grand Prix, Shinji?
La pluie.
La pluie? Mais pourquoi donc?
Car à Singapour, au mois de septembre, il pleut. Bon, dans plein d'autres endroits, au mois de septembre,
ouais,
il pleut.
Voilà, mais c'est la mousson.
Le problème, c'est que à Singapour, au mois de septembre, quand il pleut souvent la nuit.
Voilà. Et quand il pleut bien.
C'est pas un ou deux millimètres.
Oh là là là.
Tiens, j'ai les chiffres.
Ah, enfin, oh!
C'est l'excellent magazine qui est. Enfin, l'an dernier, il a plu 67 mm.
67 mm?
Ça veut dire 6 cm d'eau. Ce qui paraît pas beaucoup, mais crois-moi, 6 cm d'eau, presque 7, c'est beaucoup pour de la pluie.
Et puis en plus, c'est pas de la pluie continue, c'est vraiment. Apparemment, c'est des ondées de pluie d'un coup.
C'est même pas une douche, c'est une baignoire sur la gueule.
Voilà, il paraît que c'est assez impressionnant à voir, mais heureusement, on y a échappé.
Et puis, il n'y a pas que le côté humide, il y a le côté luminosité. Puisque la question, c'est, avec l'éclairage artificiel, est-ce qu'il risque pas d'y avoir de la réverbération? Et donc, est-ce que ça risque pas d'être dangereux pour les pilotes?
Mais bon, les McLaren ont réussi à rouler avec leur livrée très réverbérante. donc, on peut quand même penser qu'avec de l'eau, ça aurait pas nécessairement été... Ça aurait peut-être même à la limite été mieux... Parce que on aurait vraiment vu, je pense, à travers les panaches d'eau, et je pense que ça aurait peut-être été un peu plus sûr que sur d'autres circuits. Mais c'est vrai que l'alliance de circuits urbains, de la chicane numéro 10, du manque d'échappatoire, d'un fort potentiel de safety car, plus la pluie, plus l'éclairage, c'est vrai que ça aurait fait énormément d'inconnus.
Et on va pas dire que ça peut arriver, ça arrivera sans doute. Là, ils sont passés entre
eux. Oui, voilà, c'est bien.
Mais on se doute bien que l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, ça tombera.
Voilà, et comme ça, enfin, Lewis Hamilton gagnera. Non, c'est tout de suite, je tiens à rassurer Enzo qui nous écoute sûrement. Non, Enzo, je suis toujours ferrariste. N'aie pas peur. Non, parce que Enzo, à chaque fois, il me fait une crise cardiaque quand je lui dis que je suis Hamilton, le pauvre. Donc, bah, justement, puisqu'on parle de cette course depuis le début, parlons un petit peu du contexte de la course. Un contexte au niveau des classements assez serré.
Ah oui, c'est difficile de faire plus serré. Enfin, si, c'est possible.
Oui. Puisqu'on avait donc au classement Lewis Hamilton qui était premier avec 78 points, Felipe Massa qui était deuxième avec 77 points. Un résultat rendu définitif par le fameux appel de Paris.
L'appel qui a eu lieu le lundi avant le Grand Prix de Singapour.
Et donc on a eu le résultat le mardi.
Le mardi, c'est-à-dire qu'ils se sont réunis le lundi, tous ensemble et tout, ça devait durer 2 heures, ça a duré toute la journée.
Voilà.
Pour donner la décision le lendemain, la décision qui a été... L'appel n'est pas recevable.
Voilà, c'est quand même magnifique.
C'est même pas pour dire ils ont tort. C'est non, c'est dire on vous a fait de lander une journée pour que vous avez fait rien.
Et c'est là où on peut trouver la décision un peu injuste. C'est surtout que c'est voilà, c'est à quelques jours du Grand Prix, c'est à Paris, faut aller jusque en Malaisie. C'est pour l'équipe McLaren, ça a franchement été pas très sympa cet appel, surtout de le faire éterniser. Et ouais, un beau manque de classe, même si on peut pas parler nécessairement de complot contre McLaren, un beau manque de classe à l'égard d'une équipe de Formule 1. Voilà, c'est et ça s'est un peu senti quand même au cours du week-end, cette ambiance.
Il y avait peu d'espoir pour l'appel, hein, parce que la FIA.
Oui, voilà, la FIA.
Qu'ils soient revenus sur une décision.
Et puis de toute façon, on avait clairement compris que la FIA avait pas l'intention de. Déjà, même dans la décision, apparemment Charlie Whiting avait dit oui, c'est bon, vous avez bien fait, il a rendu sa place. Et la FIA derrière a contredit Charlie Whiting, donc apparemment c'est qu'ils avaient décidé de couper court à cette à toute initiative de McLaren.
Oui. Donc au ça a amené des questions intéressantes. Par exemple, c'est vrai que les commissaires sont des commissaires uniques à chaque course. Est-ce qu'il faudrait pas des commissaires qui soient là toute l'année, donc qui s'y connaissent, voire on a envisagé des anciens pilotes.
Ouais, pourquoi pas.
C'est des pistes intéressantes.
On a même vu apparaître un débat même au sein même des pilotes et des passionnés sur, grosso modo, c'est qu'est-ce que c'est que piloter. C'est-à-dire que est-ce que on a le droit à tout. Est-ce qu'il faut définir quand on a le droit de doubler, les limites du dépassement. Et c'est vrai que on se rend compte qu'il y a des questions qui sont pas encore tranchées de ce point de vue-là.
C'est terrible de se dire qu'on se plaint qu'il n'y a pas assez de déplacements, pas assez de spectacles. Et quand il y en a, et ben boum, il y a une pénalité.
Ouais, voilà. Moi, même si ça me fait plaisir hein, que Massa soit comme ça à un point seulement, c'est vrai que c'est une pénalité, je l'avais déjà dit, qui me paraît beaucoup trop lourde par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est dommage qu'une course à Spa se finisse sur un vainqueur. Pas franchement très méritant.
Non.
Voilà. Surtout qu'on lui donne raison après. Ça m'énerve. À ce moment-là, Enzo est mort. Donc au classement, on avait donc les deux premiers en un point. Et puis derrière, c'était un peu plus dégarni avec Kubica qui s'installait devant Kimi Raikkonen.
Oui.
Kimi Raikkonen qui a beaucoup. Définitivement dit, on peut le dire, adieu. À son titre. Il lui faudrait quand même un miracle à Singapour, en imaginant un accident entre les deux leaders, que Kubica ait une bonne grosse diarrhée, Raikkonen pourrait peut-être reprendre la main dans le championnat, mais voilà, ça fait quand même beaucoup de circonstances que même Singapour risque de ne pas répondre. Au classement constructeur, on avait Ferrari avec 134 points, et McLaren qui est en train de remonter à toute vitesse sur la Scuderia avec 129 points, donc seulement 5 points entre les deux écuries rivales éternelles et rivales cette saison.
Ah, peu noter quand même BM, 117 points.
Ouais.
Malgré qu'il soit une division en dessous, c'est quand même pas mal quoi. C'est ouais. Ils sont qu'à 12 points de McLaren.
C'est que quand on regarde le reste du classement, notamment par rapport à Renault et Toyota qui ont 41 points. Et qui sont quatrième ex aequo, on constate quand même que BMW s'inscrit dans la sphère des grosses équipes plutôt que dans les équipes outsider. Donc c'est vraiment une équipe surprise cette saison qui fait beaucoup mieux que ce qu'on attendait.
Ils ne sont pas au niveau des deux premiers, mais ils ne sont pas très loin.
Voilà. Et donc au-delà même des classements, cette course, d'après toi, elle se présentait le mieux pour qui?
Bah, naturellement, on pense à Hamilton. Il a gagné à Monaco.
Ouais.
Il a gagné sous la pluie. On sait qu'il y a des risques de pluie. Faut le dire quand même qu'en ce moment, c'est quand même la McLaren qui tourne le mieux.
Ouais. Quoique Ferrari a fait des essais et assure avoir corrigé quelques-uns de ses problèmes.
Voilà.
Mais c'est vrai moi, j'avais pronostiqué Hamilton
comme beaucoup, hein.
Voilà, donc. Ça semble quand même être un Grand Prix qui s'adressait à Hamilton, mais une grosse loterie quand même, puisqu'on est sur un circuit urbain, qu'il fait nuit, qu'il pleut, qu'il y a plein d'inconnus, donc on peut avoir une grosse surprise. Alors donc, autant se lancer tout de suite dans la mêlée et commencer avec les qualifications. Qualifications qui... Ah, je suis sur les qualifications du Grand Prix d'Italie. Singapour, c'est mieux.
C'est mieux, oui. 5
je me disais aussi, deux pôles de Vettel de suite, ça ne le faisait pas. Donc, une grille de qualification tout de même un peu surprise. D'abord, pas tellement par le poleman, puisque c'est Felipe Massa, mais surtout par le gouffre qu'il a creusé sur Hamilton, que tout le monde donnait favori.
6 bon dixième.
6 dixième en qualification, c'est assez impressionnant. Mais les Ferrari...
Mais il y a eu beaucoup de gros écarts.
Oui,
hein,
c'est vrai.
En essai et qualif.
Bah, c'est vrai qu'on est sur un tour, comme tu l'as dit au début, relativement long, et y a des pièges, et puis c'est vrai que... Les vieux papis comme Weber, comme Coulthard, comme Barrichello ont peut-être eu la vue qui baisse et peut-être plus d'écart.
Ouais.
Donc, mais c'est vrai que Felipe Massa a aussi confirmé, je pense, le regain de Ferrari qu'on a pu voir aux essais. McLaren n'a pas été mauvais, mais on a vraiment senti que Ferrari a tout de suite été dans le coup et ils se sont même.
Massa, il a toujours été dans les trois premiers des essais libres.
Voilà. Et ils se sont même offert le luxe. D'après les déclarations de Kimi Raikkonen, de tester d'autres réglages totalement différents de ceux qu'ils avaient au début, donc ce qui explique leur relative discrétion aux essais. Et voilà, et ça qu'on s'est vite rendu compte pendant les qualifications que les Ferrari allaient se battre pour la pole et que seul Hamilton était en mesure de pouvoir contrecarrer.
La pole s'est jouée quasiment sur les deux derniers virages.
Ouais.
Un bel enchaînement de virages d'ailleurs, un des plus jolis endroits du circuit.
Ouais, c'est vrai. Un endroit d'ailleurs totalement construit de toutes pièces, puisque c'est un ancien parc ou une ancienne marina, je crois. Donc, sur première ligne relativement excitante, puisque c'est Felipe Massa devant Hamilton, les deux leaders du championnat. N'empêche, s'il y avait un point pour la pole, on aurait une première ligne où il y aurait les leaders du championnat. C'est dingue.
Oui.
Troisième position, Kimi Raikkonen. Qui a été un temps en mesure de pouvoir jouer la pole.
Ça a été bien mieux que les derniers Grands Prix.
Voilà,
quand même, hein.
C'est vrai que...
Là, il a pu jouer la pole, ce qui est déjà un énorme progrès.
Ouais, mais c'est vrai que ça... Puis apparemment, il s'est quand même plus sur cette course, je crois. Il a bien aimé le circuit. Et moi, j'ai eu l'impression qu'après les dernières courses, on avait un peu retrouvé le Kimi flamboyant de la fin de saison dernière. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé Kimi Raikkonen ce week-end. Donc Kimi Raikkonen troisième devant Robert Kubica, qui continue de confirmer, et Kimi Kovalainen cinquième devant Sébastien Vettel.
La nouvelle star.
Voilà.
Enfin, je sais pas comment on dit en allemand.
New star. Mais voilà, Baby Schumi, comme on l'appelle, continue de surprendre cette saison. Il fait sixième après une pole à Monza. Sixième dans des conditions en plus pas difficiles, on va dire qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de conditions extraordinaires qui peuvent justifier d'un renversement de grille. Il est devant à la régulière, alors que Bourdais est passé une nouvelle fois à travers ses qualifications en se classant 17e pour des problèmes de je sais plus quoi. Je crois que sa voiture a fait tout le contraire de ce qu'il disait.
Bah, il n'a pas réussi à la régler.
Voilà. Donc,
le truc de base. j'ai pas réussi à l'arrêter.
J'aurais dû demander à Ferrari, quoi. Ferrari, ils avaient trouvé les réglages en 2 minutes. Enfin, faut demander à Ferrari. Mais c'est vrai qu'apparemment, il avait expliqué en interview qu'il s'était raté sur son premier tour et que sur le deuxième tour de qualif qu'il a fait, la voiture marchait un peu n'importe comment. Voilà, c'est l'un des comportements bizarres de la Toro Rosso de Sébastien Bourdais, puisque celle de Vettel semble mieux marcher toute l'année.
Elle marche bien, hein.
Et voilà. Donc Vettel a réussi à se qualifier devant Toyota et devant Nico Rosberg sur Williams.
Il y a Glock en fait.
Voilà, j'ai oublié de préciser la Toyota de Glock, bien sûr, qui est encore devant Trulli. Et Nico Rosberg, surprenant hein, Nico Rosberg sur les Grands Prix urbains cette saison.
La Williams, vraiment, a l'air, elle est assez compacte, ce qui est peut-être pas anodin.
Ouais.
Déjà, Monaco était pas trop mal. Elle a l'air d'aimer les circuits urbains, la Williams. Et d'ailleurs, Nakajima fait 10.
Oui, c'est bien pour Nakajima. Je crois que c'est la première fois qu'il va en Q1.
En
Q3, ouais. Ouais, c'est bien pour lui. Ça, d'ailleurs, ça lui a peut-être sauvé sa place.
Oui,
je crois qu'il a re-signé entre-temps. Donc,
Williams a confirmé sa line-up pour 2009. Voilà, donc, ça ne bouge pas. Bon, c'est vrai que Nakajima, il vient avec un gros sac à dos. Que dans le sac à dos, il y a un moteur Toyota.
Voilà. Hein. Donc,
mais ça va, quoi. Ça aurait pu être pire.
Oui. Donc Nakajima qui est 10e, juste derrière Nick Heidfeld qui est 9e. Nick Heidfeld qui Bah, qui confirme un peu l'ensemble de sa saison, qui est pas trop mal, mais bon, qui est largement dominé par Kubica quand même.
Ah oui.
Et puis, bah, a signalé le 15e, devant son coéquipier Nelson Piquet Jr., qui est 16e, Fernando Alonso, qui aurait pu jouer la pole, si ce n'est juste la première ligne.
Ah oui, oui, vraiment, là.
Il a été, pendant tout le week-end, il a réalisé le meilleur temps de la séance devant l'après-midi.
Le meilleur temps aux essais libres 2 et 3.
Voilà, donc c'est tout le monde s'attendait vraiment à ce qu'il se batte pour la pole. Il s'est facilement qualifié en Q2. Et c'est en Q2 qui est arrivé son petit problème. La voiture s'est arrêtée en bout de ligne droite.
Dans un échappatoire. Voilà.
Heureusement qu'il y a des échappatoires.
Hein. Ouais.
On sait pas pourquoi.
Il était vraiment pas content.
Ah ouais, ça se voyait. Enfin.
C'est vraiment pas content.
Bras vers le ciel. Mais en même temps, ça fait plaisir de voir un pilote comme ça. Je suis pas forcément fan du bonhomme Alonso, mais voir un pilote réagir comme ça face à la déception, ça prouve voilà que il est humain et que c'est vrai qu'il avait vraiment l'occasion de pouvoir faire une pole ou au moins une place à la première ligne. Et bah c'est un peu à cause de l'équipe qui perd sur une, je crois que c'est une erreur sur la pompe, l'allumage. L'allumage de la pompe à essence. Enfin c'est une erreur que.
C'est quelque chose qui n'arrive même pas. Dans les voitures de tous
ouais,
les
voilà,
jours.
Donc c'est rassurant sur Renault. c'est le genre d'incident qui peut coûter cher, surtout qu'on est dans une période de décision pour Alonso. Donc c'est vrai que c'est le genre d'incident qui peut faire peser la balance envers, pourquoi pas, BMW ou Honda. Voilà, sinon, sur le reste de la grille, bah, on va noter Coulthard qui est 14e, on va noter Button qui est 12e, qui fait pas une mauvaise qualification.
Non,
c'est vrai que
c'est vraiment bien c'est des, pour la Honda.
Ouais,
c'est
des circonstances en plus qu'il aime bien. Il aime bien en ville. On l'oublie un petit peu Button parce que c'est vrai qu'il y a Lewis et puis que Honda est totalement anonyme depuis 2 ans. Mais c'est vrai que c'est...
Il s'est fait tout piquer par Lewis. Mais
voilà, les gonzesses, tout le pauvre. Mais c'est vrai que ça reste quand même aujourd'hui l'un des meilleurs pilotes du plateau. Et oui. C'est vrai que c'est triste de le voir au volant d'une voiture qui rame. Sinon, on a Barrichello qui est 18e.
C'est plus normal.
Oui, voilà.
Pour une Honda.
De toute façon, ce sera sans doute son premier et son dernier Grand Prix de Singapour.
Oui.
Il aurait même jamais dû rouler à Singapour, honnêtement. J'ai beaucoup de respect pour Barrichello, mais il a fait 2 saisons de trop, quoi. Faut qu'il arrête à un moment donné. Faut qu'il se dise, c'est bon. J'arrête. Et puis, bon, bah, une dernière ligne Ferrari, hein.
Mais, comme tous les week-ends.
On va se satisfaire. Voilà, c'est notre record de la saison. C'est quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est soit Sébastien Bourdais qui est en dernière ligne avec une Force India, soit les deux Force India qui sont en dernière ligne.
Voilà.
Petite satisfaction pour Adrian Sutil qui est devant Fisichella.
Oui, mais lui, il a fait un.
Voilà, temps. Donc.
Parce que Fisichella, il a eu un accident. Il a pas fait de temps.
Donc voilà, ça commence quand même à sortir le roussi pour les deux pilotes, je crois, parce que Sutil est pas renouvelé pour le moment. Et Fisichella, on sait pas, il y a tout et son contraire qui est dit en ce moment.
Juste pour préciser, on n'en a pas dit pour être fan, mais s'il est 9e, c'est parce qu'il a été rétrogradé.
Voilà, ouais, effectivement, pour avoir gêné Barrichello, je crois. Genre, on peut gêner Barrichello. Comment, on sait pas.
C'est possible.
Tu es devant Barrichello, tu le gênes, c'est soit tu es une autre Honda, soit tu es la safety car. Il y a que la safety car qui peut déranger Barrichello. Là, on l'a vu en course en plus.
Ou Force India dans un bon week-end.
Voilà, mais c'est vrai qu'on l'a vu en course, quoi. Barrichello, il ne peut être gêné que par la safety car. Voilà, il y a que sous la safety car qui crame son moteur. C'est-à-dire que vraiment, la safety car a un régime très élevé par rapport à la Honda. Donc voilà, donc c'était la 14e pole de Felipe Massa, la 202e de Ferrari et désormais la 203e d'un moteur Ferrari.
Et oui, il y a un décalage.
Voilà, faudra, c'est...
Depuis, t'as vu, il y a un décalage.
Faudra en tenir compte. voilà, donc reste plus qu'à...
C'est
bon pour la grille, voilà. Alors pour la course, on va s'inspirer un petit peu de ce que fait Shinji sur son blog. Je conseille d'ailleurs la lecture de ce blog.
Je me suis moi-même inspiré oui. Des forums de
donc
ce qui n'est pas de l'orgueil, je l'accorde, mais
oui, honte à toi. D'ailleurs, on va tout de suite arrêter ce comment ça s'appelle ce service après-vente de la F1, d'accord. Tu vas rentrer chez toi parce que tu t'inspires de trucs qui existent déjà, hein. Nous, on est totalement originaux. On s'inspire pas du tout de ce que fait Eurosport le lundi soir. Donc oui, le top flop de Shinji, que vous pouvez retrouver sur son blog, totalement inutile, mais très intéressant. Je donne l'adresse vite fait, tu m'autorises? Ouais. De toute façon, il y a que toi qui va écouter, donc voilà. http://shinji, donc shinji.overblog.fr. Et il y a vraiment de tout, hein. Il y a même une petite mascotte. On dirait Bernie Ecclestone de profil.
C'est pas faux.
C'est pas faux.
Donc, mais il a pas de lunettes.
Lui. Donc à ton top flop, qui avais-tu classé dans les tops?
Bah, naturellement, le premier top, c'est le vainqueur.
Ah, mais qui est le vainqueur?
C'est Alonso.
Alonso, vainqueur.
Alonso.
Et comment il a fait?
Alors non, il n'a pas volé de McLaren, il n'a pas emprunté une Ferrari, bien qu'il aimerait beaucoup. Non. Il est arrivé premier. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc la première partie de la course était normale.
Avec Massa qui s'est légèrement envolé. Kimi Raikkonen qui a fait un bon début de course, un petit peu en retrait les 3 ou 4 premiers tours, et puis qui a commencé à claquer des temps et récupérer, je crois, 6 ou 7 secondes sur Hamilton.
Ah, et pour une fois qu'il ne se réveille pas au bout d'une heure.
Puis est arrivé.
Eh bien, Piqué, qui est parti au Piqué.
Piqué qui s'est...
Enfin, plus exactement, il est parti dans le mur.
Voilà, qui s'est bouffé un joli mur en plus.
Ah bien, ouais.
Et il a fait un tête à queue, un problème de réaccélération, je pense, en sortie de virage. Il a dû taper une bordure, rouler sur une ligne blanche. Et ouais, il a tapé le mur.
Et donc, forcément, circuit urbain, voie bouchée, donc safety
car. Et là, qu'est-ce qui se passe quand il y a une safety car?
Sauf que, Alonso, donc au moment où la safety car sort, est allé au stand ravitaillement.
Voilà, et il y a ce fameux règlement qui fait très polémique en Formule 1, le fameux règlement inspiré de la NASCAR et du Champ Car américain, qui stipule que la voie des stands est considérée comme fermée jusqu'à ce que la direction de course estime qu'elle doit être ouverte. Et donc à ce moment-là, aucune voiture ne doit rentrer dans les stands.
Voilà.
Sauf que effectivement, c'est arrivé à une période de la course où on était dans le début de la fenêtre des ravitaillements. Alonso avait ravitaillé un ou deux tours avant, je crois, donc c'était vraiment bien calculé.
Ça a vraiment été très juste, hein, parce que même chez Renault, après, ils ne
savaient pas s'il allait être
pénalisé.
C'était assez, étonnant.
Et donc, il a griffé tout le monde.
Oui.
Il s'est retrouvé en tête de la.
Parce qu'il faut quand même rappeler que Alonso, après sa déception des qualifications, avait tout de même déclaré c'est mort, de toute façon pour gagner il faut compter sur 3 safety cars, 12 abandons devant, et puis qu'il se passe un incident au stand pour les autres, donc il était vraiment parti sur un scénario catastrophe. Et ce qui est très drôle, c'est que il remporte la course sur un scénario catastrophe grâce à Piqué, qui se sera rendu utile au moins une fois cette saison.
Voilà.
Et puis ça fait plaisir de voir Alonso gagner. On a vu son.
Et puis bon, forcément, une fois qu'Alonso est en tête, pour le déloger.
Oui, et puis c'est vrai qu'il a fait. Il y a eu une autre. Il avait un bon rythme. Il aurait pu être concurrencé par Nico Rosberg, je pense qu'on en reparlera. Mais il avait un bon rythme. Et lors du deuxième safety car qu'il y a eu pour je sais plus quel incident, il a éternué tout le monde sur le restart. Et comme la voiture était bonne depuis le début du week-end, un peu par magie, personne n'a compris. Même chez Renault, on ne savait pas ce qui se passait. Il a pu remporter sa première course depuis, si je ne me trompe pas, Monza 2007 sur McLaren.
Oui.
Et offrir la première victoire à Renault depuis le Japon 2006.
Et c'était déjà lui. Donc c'était entre guillemets une autre époque.
Et en plus, c'était une victoire qui avait quasiment offert le titre à Alonso, puisque Schumacher avait cassé son moteur. Quel mauvais souvenir.
Donc à la fois il y a du mérite parce que vraiment c'était dès les qualifs sa meilleure course.
Oui,
mais il a quand même eu énormément de chance.
C'est vrai que il a eu, disons que l'incident de course a corrigé sa malchance des qualifications.
Voilà,
s'il n'avait pas eu prendre en qualification, il pouvait partir facilement dans les 4 premiers. Et en course, on peut estimer qu'avec le rythme qu'il avait depuis le début du week-end, il pouvait facilement faire un podium, voire jouer la victoire. Et c'est vrai que l'incident de course, grâce à Piqué, a permis effectivement de rétablir les choses. Et puis c'est vrai que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le pilote, voir son émotion après le Grand Prix au bout de 2 heures d'efforts qui ont apparemment été durs, parce que sur tous les pilotes ça se lisait qu'ils avaient des efforts, On a eu un Alonso qui était très heureux de gagner. Et puis c'est peut-être une victoire qui va peut-être pas lui le faire réfléchir sur son avenir chez Renault, j'y crois pas.
Ah, il paraît que ça n'influera pas.
Parce qu'il y a quand même à la base un incident qui, pour une équipe qui veut garder son champion du monde, n'est pas pardonnable. Mais quoi qu'il y a d'autres équipes qui font d'autres erreurs. On y reviendra. Mais voilà, c'est vrai que le voir gagner, ça fait plaisir. Je pense que ça va aussi remotiver Renault, leur donner envie de leur donner à nouveau la soif de la victoire. Je pense que ça leur manquait un petit peu. Et peut-être conduire une dynamique positive pour la saison prochaine.
Puis même s'ils peuvent pas monter beaucoup plus au championnat, il y a quand même une petite compétition avec Toyota pour être, comme on dit, the best of the rest.
Ouais. Et puis c'est vrai que les trois autres sont vraiment tellement sur une autre planète. Enfin, on parlait tout à l'heure de BMW qui était vraiment très très bien. Donc même finir bien devant les autres, ça serait une très grosse satisfaction, je pense, chez Renault. Voilà. Et puis c'est pas finir pire que la saison dernière.
Ah non,
voilà, le bilan est quand même largement meilleur que la saison dernière.
Alors, en top, le deuxième de la course, c'est Rosberg. Ouais.
Rosberg aurait pu jouer la victoire. Sans... Ouais.
Déjà, on l'a dit, la Williams marchait très bien tout le week-end. Et donc, on en revient à cet incident de safety car.
Ouais.
Et donc, lui aussi, il a dû rentrer au stand.
Voilà, lui, il a dû rentrer au stand.
Sauf que lui, les stands étaient fermés. Et donc, stop and go.
Stop and go. Stop and go, franchement, ça a été un truc, on pénalise un pilote, bon, très bien, mais il y a la pénalité, le drive-thru, on passe juste par les stands. Là, on passe par les stands et on demande au pilote de s'arrêter 10 secondes. Non seulement le mec prend une pénalité parce qu'il avait pas le choix, il était obligé de ravitailler, sinon il s'arrêtait sur le bord de la piste, un peu à l'image de ce qu'a fait Barrichello. Et clac, là, on lui donne non seulement une pénalité, mais en plus on lui rajoute 10 secondes.
Donc, s'il n'avait pas eu la pénalité, il était devant Alonso.
Voilà.
C'est certain. Par contre, l'effet pervers, c'est que s'il n'y avait pas eu la règle des stands fermés, il n'aurait peut-être pas fait un aussi bon résultat.
Ouais.
Parce que dans ce cas-là, tout le monde serait rentré au stand. Et donc, il n'a pas gagné.
Tout à fait.
Là, il a gagné de l'espace parce qu'il est rentré au stand. Qu'ensuite, avec des pneus frais et tout ça, il a gagné un maximum de temps. Il a fait sa pénalité vraiment le plus loin qu'il pouvait, parce qu'il y a un délai, c'est du temps.
Oui, je crois que c'est 3 tours. Et comme la décision a déjà été très longue à être prise, ils ont mis presque 5 ou 6 tours à prendre la décision. Ouais. Plus Williams qui a bien compris qu'il fallait faire rentrer Rosberg au dernier moment. Donc effectivement, il a bénéficié presque de 8 à 10 tours pour claquer des temps. Et c'est vrai que la Williams était très rapide et il avait, je crois, à un moment donné, presque 15 secondes d'avance sur le deuxième.
Ah oui. Donc il y a vraiment un effet pervers, quoi.
Ouais, voilà. On a vraiment bien vu que la première safety car a vraiment totalement redistribué les cartes. Que à la fois ce règlement, on en voit les côtés pervers, mais c'est vrai qu'il a aussi des côtés moins pervers. Il permet de mettre en avant une équipe, de jouer avec les stratégies. Donc voilà, moi je trouve ça un règlement un peu compliqué, qui a des bons aspects mais aussi des mauvais.
Alors ensuite, troisième du podium. Alors là, on rentre dans le classique. Hamilton.
Hamilton, ouais.
Qui finalement n'a pas fait une course flamboyante.
Oui.
Enfin, il a fait une course solide, très bien. Il a été devant. Il n'a pas perdu trop de place au moment de la safety car. Ouais. Et donc, il se retrouve finalement troisième.
C'est vrai que c'est aussi l'avantage, c'est qu'au moment du safety car, il n'a pas été embêté, je dirais, par son coéquipier qui est venu derrière. Chez McLaren, on a fait les choses de façon ordonnée, contrairement à d'autres équipes. Voilà. On sent la pression monter là. On a tous hâte de parler de Ferrari. Mais c'est vrai que il a fait une course anonyme, mais en même temps, je pense qu'il a fait une course de champion du monde. On se souvient, tout le monde l'a dit après la course. Il y a un an, il aurait attaqué Rosberg et il aurait commis une erreur. Là, non, il est resté derrière Rosberg il a géré. Et voilà, ça fait 6 points de prix par rapport aux autres.
Il n'a pas été flamboyant, mais on ne lui reproche pas.
Voilà, donc, c'est... De tout le week-end, de toute façon, Hamilton, moi, ne m'a pas paru vraiment au top.
Lui-même disait que les Ferrari étaient peut-être meilleurs que...
Voilà, donc, c'est un très bon résultat pour lui.
Ouais.
Alors, dans ton top-flop, tu parlais aussi de Glock.
Oui, de Glock, qui finit quatrième. Ouais.
On veut une course discrète aussi, même plus discrète que Trulli.
Course discrète, mais... C'est Toyota, quoi. Donc, Toyota 4e, faut quand même le saluer.
Ouais.
5e, Vettel.
Oui, ça...
Alors, comme je l'ai dit, Vettel 5e, ça paraît presque...
Mais ouais, c'est vrai.
Mais faut pas oublier que le résultat exceptionnel, c'est celui en
voilà.
Italie.
Et que si on compare à Bourdais, je crois que Bourdais finit loin derrière. Donc c'est toujours pareil, il faut comparer aux coéquipiers. Et Bourdais finit, il finit combien Bourdais? Il finit 12e. Donc c'est vrai que, alors que Bourdais a l'expérience des courses de nuit, puisqu'il a roulé en champ car où il y avait déjà eu
une course de nuit urbaine normalement.
Et puis il a une expérience des courses urbaines qui est inégalée en Formule 1 cette saison. Donc voilà, c'est vrai que c'est une bonne marque pour le futur pilote Red Bull.
Alors j'ai aussi noté Hetfeld, parce que c'est des pilotes BMW, c'est lui qui est rentré dans les points.
Mais c'est pareil, alors justement, Kubica a aussi vu sa course ruinée par
ce règlement.
Oh la vache, comment il me coupe. Oh, vas-y, vas-y, continue. Je suis vexé là. Donc oui, Eiffel, c'est vrai qu'il finit dans les points et puis il a fait une bonne course quoi.
Honnête, voilà. Sinon aussi en top, Coulthard qui est dans les points.
Ouais.
Lui, ça lui est pas arrivé très souvent cette année. Coulthard, on l'aime bien.
Ouais, parce qu'il fait une belle carrière, surtout chez Red Bull, ça qui fait une belle fin de carrière.
Les Red Bull marchaient pas trop mal à Singapour.
Ouais, bah, ils ont à peu près les leçons de Monza, je pense.
Et bon, Weber a pas eu de chance, donc ça se voit pas dans les résultats, mais ça pouvait aller quoi. Parce que c'est vrai que depuis quelques semaines,
Red Bull était derrière Toro Rosso. On a rapidement expliqué parce que c'était Red Bull, c'est l'écurie qui développe et Toro Rosso, c'est celle qui bénéficie des produits finis. En plus, ils ont le moteur Ferrari, donc c'est vrai que ça leur donne un certain avantage.
Voilà pour mes tops.
Ah non, t'en oublies un. Ce moment historique que tu nous as signalé.
Ah mais oui, j'avais oublié. Mais c'est tellement rare, c'est tellement unique, c'est tellement incroyable.
Attendez, il faut bien prévenir tout le monde. Accrochez-vous bien.
Giancarlo Fisichella.
Voilà, le pilote Force India. Qu'est-ce qu'il nous a fait?
Il a été deuxième. Attention, je dis bien deuxième, je ne dis pas douzième. Hein, douzième, ça serait déjà énorme. Non, il a été deuxième pendant 9 tours du Grand Prix.
C'est hallucinant.
Et attention, quand je dis 9 tours, c'est pas 9 tours sous safety car. Non. Sur les 9 tours, il y a eu 7 tours sans safety car.
Incroyable.
Voilà, une Force India, deuxième d'un Grand Prix. C'est aussi fou qu'une Spyker d'une
Oui.
Là, on est sur le cul, là.
Alors, Shindy, donc, après tes tops, passons au flop de la course. Voilà, on va garder le meilleur pour la fin. On va commencer par les petits flops, hein. Et on va garder les gros flops pour la fin. On est sadique, on aime bien faire tenir les gens comme ça.
Bon, déjà, un flop qui a été dans le mur.
Oui.
C'est piqué.
Oui. On a déjà parlé, c'est vrai que, est-ce qu'on doit vraiment en parler?
Bah.
Ne peut-on pas, juste par pitié pour ce pilote qui vit ses dernières heures en Formule 1, espérons-le.
Disons juste quand même qu'il y a des gens qui ont été assez parano pour penser qu'il avait fait exprès.
Oui.
D'exploser la voiture.
Mais tu sais, moi j'y crois. Non, c'est vrai que,
D'un plan pour exploser sa voiture.
C'est vrai que c'est surtout ça. C'est vrai que le timing est assez bon. Moi, je dirais tout simplement, voilà, c'est un incident qui n'a rien de programmé. Et à un moment donné, c'est vrai que Piquet sort tellement qu'à un moment donné, il fallait bien que ça profite à Alonso. Voilà, ça a fini par profiter à Alonso. Parce que je crois qu'il y avait déjà eu un Grand Prix dans la saison où Piquet était sorti. Et puis là, au contraire, ça n'avait pas profité à Alonso. Voilà, c'est mais bon, un peu de respect ne serait-ce que pour son père, hein.
Ouais. Au moins pour lui.
Mais
voilà.
C'est peut-être un bon pilote Piquet, c'est un type assez sympathique, mais enfin assez sympathique, je parle comment je vais me récupérer. Non, voilà, c'est dur pour ce pilote, parce que ce pilote, il a été élevé par son père comme un futur champion. Père lui a créé une écurie de cartes, il lui a créé une écurie de GP2. Tout a été créé pour lui. Et il s'est retrouvé en Formule 1. Son père en a automatiquement fait le nouveau Lewis Hamilton pour Alonso. Et c'est vrai que Piquet est arrivé, il s'est rendu compte, que la Formule 1, c'était pas le royaume de papa. Et qu'il arrivait chez Renault, que chez Renault, on est Alonso 100%. Je pense qu'il est tombé surtout dans la mauvaise équipe. Il a totalement perdu confiance.
Ouais.
Puis c'est aussi l'exemple inverse d'un Hamilton. voilà, ça rappelle aussi que les pilotes, les jeunes pilotes, faut d'abord les faire passer par des petites équipes, par des Force India, des Toro Rosso. Minardi nous manque de ce point de vue-là, parce que Minardi a quand même révélé des grands pilotes. Sauber aussi, tous les pilotes sont sortis de par là. Massa, Kimi Raikkonen, Alonso, sont sortis de petites écuries comme ça, où ils ont fait leur classe. Piqué est automatiquement arrivé à côté d'un grand champion qui est Alonso, dans une écurie qui reste une écurie pointe. C'est très dur, quoi. Ça aurait été comme nous coller Massa dès la première année de Formule 1 à côté de Schumacher.
Ouais.
Voilà, on a mis Massa à côté de Schumacher, mais à la fin, et quand Massa avait déjà l'expérience de la Formule 1. Donc voilà, petite alors parenthèse, ensuite... Piqué.
Ouais. Alors ensuite... Un autre qui a abandonné,
un autre
c'est
Barrichello. Oui, alors là, c'est...
Lui, il a abandonné, il a fait un truc énorme.
Il fait ça avec panache. S'il abandonne, il fait ça avec panache.
Ah ouais. Il le fait déjà pendant la safety car.
Voilà. Et en plus, il le fait en plein milieu d'un pont.
D'un pont.
Voilà. Et en plus, il y avait une petite image très rigolote que j'ai vue sur Eurosport pour aussi montrer l'état de fatigue ou l'état de vieillesse de Barrichello. Barrichello, très sympathiquement, est passé devant les tribunes qui étaient sur le pont et a voulu jeter son casque.
Ah oui.
Et il était donc parallèle aux tribunes. Il a essayé de jeter son casque en le lançant vers la droite. Sauf que le casque, au lieu d'aller vers la droite, est allé tout droit et légèrement incliné vers la gauche, au point que le casque est tombé dans l'eau sous le pont. ce qui est à la fois révélateur de la fatigue et puis aussi peut-être du manque de lucidité de ce pilote qui croit encore qu'il va être champion en 2009. Hein. On se demande sur quelle voiture, hein, peut-être à pied. Ça se trouve, il court très vite. Hein. Alors donc, Barrichello, est-ce qu'on tape sur l'ambulance ?
Tout a été dit sur Barrichello.
Donc on peut passer à ton troisième flop.
Bah, Kubica, un des malheureux de la safety car,
ouais.
Qui a lui aussi vu sa course ruinée à cause d'une pénalité, mais alors lui, bien quoi.
Oui, ouais, parce que... Mais c'est surtout ça le truc, c'est que d'abord sa course était ruinée, d'abord sa course a été ruinée et en plus on l'a pas vraiment senti contrairement à Rosberg en mesure de pouvoir revenir. Je pense que un peu à l'image de ce qui est arrivé à Massa, la pénalité lui a donné un coup de massue sur la tête et il a plus du tout été dans la course à partir de ce moment-là. Il a été il a essayé de gérer la course et voilà, c'est une course sans moi je pense pour lui. C'est surtout, je pense, en ça que c'est un flop. Il a pas su remonter, et même BMW a pas su réagir avec le deuxième safety car, etc. Ils auraient pu essayer de trouver quelque chose. Et non, ils y sont pas arrivés.
Alors ensuite, une petite pensée pour Sutil. Un autre malo. Alors, lui, c'est même pas qu'il a des problèmes mécaniques, de pneus et tout ça. C'est qu'il a un pire ennemi dans le paddock. Et ce pire ennemi, c'est Felipe Massa.
Alors là, je te cite, hein, je cite, parce qu'il faut le citer. Alors, je lis. Hein. Sutil, on ne le sait pas, mais Adrian a oublié de rendre le disque de Tokyo Hotel à Massa. C'est pour ça que l'Allemand a été un peu victime du Brésilien. D'abord, presque percuté par lui lors de l'affaire des diodes et du tuyau de 40 kilos, dont on va reparler, il se fait piéger à l'entrée du tunnel par le rouge et a fini encastré dans le muret à l'entrée du tunnel. Après Monaco, le pauvre ne va pas aimer les rouges. Et rappelons qu'il a un moteur Ferrari.
Oui, puis donc Monaco, c'est par rapport à Raikkonen.
Oui.
Et puis il y avait aussi eu l'affaire de la sortie de stand.
Valence, je crois que c'était encore avec Valence. Massa.
Oui.
Oui, c'était à Valence. Oui,
Massa avait eu une amende absolument monstrueuse de 10 000 $.
Voilà. Alors que là, assez bizarrement, il a été condamné pour même incident. Il a été condamné à un pit stop, je crois, à un passage au stand.
Ouais.
Voilà.
Et surtout que 10 000 € pour un pilote de F1.
Oui, voilà, c'est
de la petite monnaie, quoi.
10 000 €, c'est cher pour un pilote qui a pas de salaire, genre Sutil.
Voilà.
Mais pour Massa qui est payé, je sais pas, doit être payé 5 ou 6 millions, donc faudra quand même un jour qu'on nous dise où va cet argent.
Ouais.
Voilà.
Une pensée quand même pour l'Allemand qu'on aime bien aussi.
Oui, en plus on aime bien.
Bon, cette année il a été moins performant.
Ouais, mais apparemment il y a un climat pas très bien chez comment ça s'appelle, chez Force India, et puis. On lui a pas vraiment fait confiance l'année dernière, on l'a repris, mais sans le mettre dans une position de confiance, on lui a collé Fisichella en leader. Voilà, moi c'est un pilote que j'aime bien, j'espère qu'il va rester. ou même trouver un poste d'essayeur dans une grande équipe. Parce que voilà, c'est un bon pilote, franchement.
Alors après, Sutil n'est pas encore au gros morceau.
Ah ouais.
Non. Je le fais pas dans l'ordre que j'ai fait mon article, tu vois. Je décale.
Mais vas-y, vas-y.
Quand même, il y a un flop, ça a été la règle des pits fermés.
Ouais.
T'en as parlé. Ouais. C'est vrai que, alors, en théorie, cette règle, elle a été mise en place pour éviter que les voitures, lorsque le safety car sort, se jettent tous sur la ligne des stands,
voilà,
pour ravitailler. Donc au lieu de ça, ils attendent, et quand c'est ouvert, ils se jettent quand même tous dans la ligne des stands.
Et on se souvient d'ailleurs, c'était la première fois où on l'a vu appliquer, je crois que c'était à Montréal l'année dernière.
L'année dernière, ouais.
Et ça avait été, on en avait parlé après le Grand Prix, on suit tous les deux les cours de NASCAR, et c'est vrai qu'on avait vraiment l'impression d'avoir eu une entrée de stand façon NASCAR. Moi, c'est vrai que sur cette règle, on nous dit que c'est pour faire moins dangereux, et c'est là où je comprends pas le truc, parce que s'il y a safety car, les voitures, elles rentrent, mais elles vont rentrer dans un délai, toutes les voitures vont rentrer, mais dans un délai de 20-25 secondes.
Oui, ouais.
Là, c'est, on réunit d'abord les voitures pour les faire rentrer, donc c'est-à-dire toutes les voitures vont rentrer dans un délai de 5 secondes.
Voilà, donc au lieu de toutes les faire rentrer en même temps, on les rentrait en temps.
Voilà, donc c'est...
C'est la subtilité.
C'est, ouais, c'est stupide, en plus on pénalise les stratégies de course, etc., donc c'est...
La seule chose que ça fait, c'est de pénaliser des pilotes.
Voilà.
Pour rien.
Tout ça pour faire comme les Américains, ça m'énerve.
Mais surtout que en NASCAR, ça marche, ou même en IndyCar, parce que comme ils sont sur ovale, ils mettent peu de temps à se ranger derrière la safety car.
Non, et puis c'est pareil, c'est aussi quelque chose de différent là-bas. C'est-à-dire que faut quand même rappeler, en Formule 1, on a une équipe de mécanos par écurie. C'est oui. Très rare qu'on voie deux voitures de la même équipe ravitailler en même temps avec chacune son équipe de mécanos. Donc c'est vrai que aux États-Unis, chaque voiture a son équipe de mécanos, donc ils peuvent rentrer sans gêner à la limite. C'est toujours un peu musclé, mais ils rentrent sans gêner. Là en Formule 1, on l'a vu en course, on a Massa qui rentre en premier et on a Raikkonen qui klaxonne derrière, et qui klaxonne d'autant plus derrière que Massa était premier, Raikkonen troisième, et qu'ils étaient à une seconde l'un de l'autre. Donc indirectement, cette règle, avant, elle aurait pénalisé Raikkonen, mais elle le pénalise encore plus puisqu'elle lui fait attendre encore plus longtemps. Donc, ouais, tu as raison d'avoir mis cette règle dans les flops.
Voilà. Et donc maintenant, on passe au grand morceau, parce que vous aurez remarqué, il y a quand même une écurie dont on n'a pas parlé.
Mais laquelle? Alors, attends,
c'est
on a parlé...
C'est-à-dire que, en règle générale, on pourrait...
Alors, je vous explique. Là, j'ai écrit quelque chose à Shinji, et il est en train de le lire.
Ça m'a troublé. Donc, en règle générale, je vous fais un flop sur un membre de l'équipe, ou l'équipe en général, les deux voitures. Là, non. Là, c'est vraiment la totale.
On va se lâcher.
C'est-à-dire que c'est un flop pour Massa, c'est un flop pour Raikkonen, c'est un flop pour l'équipe au stand, c'est un flop pour l'organisation de Ferrari. Ça a été une horreur, ce
Grand Prix. Ouais, c'est le premier Grand Prix depuis Melbourne, je crois, Melbourne 2006.
Ça fait 46 grands.
Ouais, c'est qu'il n'avait pas, il n'y avait pas eu une Ferrari dans les points, et on sait que ces dernières courses, il y avait souvent au moins une Ferrari dans les points.
Zéro.
Plus souvent Massa d'ailleurs que Raikkonen. Et là, c'est vrai, zéro. On a vécu un week-end où on est quand même passé du plaisir de revoir Ferrari en forme en qualification à avoir la honte le. Le dimanche à 16h05, on avait honte.
Commençons quand même par celui qui s'est fait bien remarquer, c'est Massa.
Massa, ouais. Massa qui... Donc
Massa, souvenez-vous, hein, safety car, les stands sont ouverts, tout le monde rentre. Ravi. Alors en plus, c'est chez Ferrari, ils ont quand même fait rentrer les deux voitures en même temps, ce qui est quand même pas l'idéal.
C'est vrai qu'ils auraient pu décaler, mais... c'est vrai qu'à la limite, peut-être qu'ils ont estimé que Kimi perdrait moins de temps. Mais c'est toujours pareil, c'est... Juste, ça, je vais sans doute y revenir, mais cet incident, il révèle bien que chez Ferrari, on n'a pas de leader en tête. Oui. Puisqu'on a peur de faire perdre du temps à Ferrari, donc c'est soit on considère que Massa n'est pas encore le leader, ou alors qu'on a du mal à se décider entre Massa et Raikkonen, ou alors c'est qu'on pense plus au titre constructeur qu'au titre pilote. Et ça s'est ressenti, c'est précipité, ça dans la stratégie, effectivement, comme tu dis, il faut rentrer les deux pilotes alors qu'ils auraient très bien pu faire rentrer Massa puis Raikkonen. Et non, en fait, ça ne l'a pas fait.
Et donc Massa rentre, ravitaille, parce que chez ils n'ont plus de lollipop, mais un système de feu tricolore
qui est trop...
passe au vert.
Parce qu'en plus, ce système tricolore, il est activé par un bouton d'un mec qui se trouve à 20 mètres des ravitaillements. Alors qu'avant, on avait un mec qui se trouvait à 50 cm du ravitaillement et qui levait ou baissait, donc il pouvait réagir très vite. Donc par souci de mettre un homme de moins sur le pit, on a transporté le mec à la lollipop 20 mètres plus loin, qui ne voit strictement rien de ce qui se passe pour le ravitaillement.
Donc Massa repart, sauf qu'il y avait un petit détail.
Petit,
un tout petit.
Petit,
hein,
genre petit 40 kilos, 10 mètres de long.
C'est que le tuyau de ravitaillement n'était pas débranché.
Ah bah, il va être débranché.
Ah là, il a été débranché. Et donc, il a fait quoi, 200 mètres, 300 mètres, à peu près.
Ouais, il a fait toute la ligne descente avec le...
Un magnifique tuyau de 40 kilos.
Alors, magique qu'il n'y ait pas eu d'incendie. Magique qu'il n'y ait pas eu de blessé avec le tuyau, parce que c'est quand même un gros tuyau. Ils nous ont fait ce qu'avait fait l'année dernière au Grand Prix de France, je ne sais plus quel pilote, sur Spyker.
Parce qu'on a... a bien vu l'essence partir du
tuyau. Oui, c'est franchement, c'est un miracle. On a vu après un autre incident identique avec Coulthard, et on a bien vu Coulthard, l'homme à la lollipop a levé la lollipop, Coulthard est parti, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème, il a tout de suite freiné. Et on n'a pas eu ça chez Massa. Massa aurait dû freiner, ça veut dire que Massa, on a peut-être aussi un climat chez Ferrari qui est à la confiance absolue, on ne fait plus attention aux petits problèmes.
Donc après tous ces problèmes, Massa repart. Encore
ouais.
Alors il a fallu quand même que les gars de Ferrari fassent tout le stand pour débrancher. Ils ont eu du mal en plus, hein.
Oui, ils ont eu du mal. Ça a pris énormément de temps. Et puis en plus, quand Massa repart, je crois qu'il repart encore une fois sur Sutil. C'est le fameux incident avec Sutil. Ce qui en plus lui vaut une pénalité.
Oui.
Hein, donc voilà, ça fait beaucoup hein, dans les stands. Cet arrow stand, je pense qu'il restera gravé dans la mémoire de Massa.
Donc Massa se retrouve bien non super loin dans les positions, je sais plus jusqu'où.
Il est dernier, je crois. Il est derrière Bourdet.
Même derrière Bourdet, pour vous dire. Et donc là, on a eu le Massa de fond de grille, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a le Massa de pôle. Donc le Massa de pôle, il est premier, il commence premier, il finit premier. Nickel, voilà. C'est super nickel, parfait. Et puis il y a le Massa, genre Silverstone, qui traîne au fond. Et là, il vaut même pas un pilote Force India.
Mais moi, indirectement, cet incident, il m'a un petit peu conforté dans mon opinion. C'est méchant ce que je vais dire. Mais moi, j'ai toujours dit, depuis qu'on a senti que pour Kimi, c'était peut-être pas l'année et que on allait devoir se contenter chez Ferrari de Massa. Et quand je dis se contenter, je le pense. C'est vrai que moi, j'ai toujours pensé que Massa, c'était un très bon pilote. Mais que psychologiquement, c'est un pilote qui a du mal. Et il n'a pas la capacité comme je pouvais le lire sur Raikkonen dans des forums, etc. Voilà, Raikkonen, n'importe où il part, on peut être sûr que quand il est en forme et quand il est dedans, il va finir dans les points ou sur le podium. Massa, malheureusement, on a l'impression qu'il a des difficultés à progresser. Donc voilà, quand il est en pôle, c'est très bien, il est très rapide. Il a foutu un nombre de pilules incroyables cette année à Raikkonen en pôle. Et pourtant, en course, voilà, on peut, s'il est pas devant, les courses sont difficiles. On l'a vu à Spa-Francorchamps où il est troisième et puis, on a l'impression qu'il se contente de ça. On l'a vu là ce week-end, dès qu'il est derrière, il perd de tout. En plus, psychologiquement, je pense qu'il ressasse tout l'incident dans sa tête. Et puis, on se souvient tous de Silverstone, quoi. Silverstone, il faisait des toupies pour signaler aux avions où se trouvait le circuit, quoi. C'est pour ça que moi je suis très pessimiste sur Massa pour le championnat du monde et je suis très pessimiste globalement sur Massa comme leader d'une écurie.
Donc en autre flop en conséquence, c'est bien évidemment c'est ce système alors qui existe depuis au moins la fin de l'année dernière.
Oui, il avait été introduit je crois en plein milieu de la saison dernière.
Donc au lieu d'avoir ce qu'on appelle aussi une sucette qui se met devant la voiture lors des stands, là c'est un système de feu. Faut bien dire que c'est pas Massa qui est en tort. Hein. Parce qu'on a bien vu les images.
Non, on a bien vu, lui passe le feu vert.
Le feu vert, hein. Et le boulot d'un pilote, c'est quand on lui dit de partir, il part.
Mais c'est vrai que ce problème de ravitaillement, il y en a déjà eu pas mal cette saison.
Oui.
Mais on peut en même temps reconnaître à Ferrari un mérite, c'est d'avoir essayé de vider la pit lane. Oui. C'est vrai, quand on regarde, on a quasiment, je crois, c'est 3 mécaniciens par roue. Donc on calcule, hein, 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait, attendez, je calcule, ça fait 12. Plus 2 au ravitaillement, plus le lever avant, plus le lever arrière, plus le main de la Lollipop. Donc on a vite 15 ou 20 personnes sur un pit stop. Donc c'est vrai qu'ils ont essayé de vider un peu la pit lane, sauf que ils n'ont pas trouvé un système qui réduise, qui apporte un plus. C'est ça crée plus de problèmes à lui que ça en arrange.
Et pendant le reste du Grand Prix, ils sont revenus au système.
Ils ont
confirmé que pour la fin de la saison, ils revenaient à la sucette.
Mais moi je pense on a eu l'occasion, peut-être qu'on y reviendra à la fin, de découvrir ce week-end en vrai, de voir à la télé les courses de A1 Grand Prix. Et ce qui était assez étonnant pendant cette course, c'est de voir qu'il y avait un mécanicien par roue, et que au total sur la pit lane, il y avait 7 mécaniciens, y compris la Lollipop, y compris les levers avant et arrière. Donc voilà, en comptant 2 mécaniciens pour le ravitaillement, on fait juste 9 mécaniciens. Alors oui, les ravitaillements seront peut-être plus longs, mais je pense qu'on peut s'inspirer de ça en Formule 1, réduire les équipes, ça évitera qu'il y ait du monde. Et faire un peu comme en A1 GP où on a pu voir que c'est la voiture qui se gare et ensuite les équipes qui se précipitent sur la voiture, plutôt que d'avoir les équipes qui attendent. Je pense qu'effectivement c'est des trucs qui peuvent être faits pour la sécurité, plutôt que de laisser l'initiative malheureuse aux écuries de trouver des systèmes et de bricoler comme ça.
Chez Renault, j'ai vu qu'ils avaient un système un peu intermédiaire, c'est-à-dire que c'est une sucette, mais il y a deux feux dans la sucette. Au niveau, tu sais, c'est le Lyon ING. Et les deux lumières sont au niveau des oreilles.
Ah, c'est un système qui est pas trop mal parce
c'est une bonne idée.
Un double, le pilote part que quand la sucette est levée et que le feu est vert.
Voilà. Parce que je pense qu'avec ce système-là, tu sais, il ne retourne pas la sucette, parce qu'il n'y a pas besoin.
Voilà, non.
Mais il y a quand même la sucette pour dire qui est beaucoup plus réactive.
Voilà, il y a le regard à la fois de l'homme à la sucette qui voit le stand de près, puisqu'il est juste devant. Et puis un regard un peu plus lointain, qui est plus posé, qui voit d'ensemble et qui voit la ligne des cordes, etc. Donc je pense que c'est peut-être un meilleur système que ce qu'a Ferrari. On a tapé sur Massa, on a tapé sur le système de Ferrari. On peut aussi taper sur Ferrari en général.
Ah bah oui, là forcément.
Parce que cet incident quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça révèle que soit on est que concerné par le classement constructeur. Soit qu'on n'a pas de leader dans l'esprit, qu'il n'y a pas de leader clair. Moi, quand on voit les déclarations chez Ferrari, on a Raikkonen qui dit « Oui, je vais aider Massa, peut-être à la dernière course, s'il est en position de gagner, quand je serai plus dans les... quand je serai plus mathématiquement en course. » Alors que, il y a un mois, je crois c'est après le Grand Prix de Spa ou le Grand Prix d'Italie, on avait dit, il y avait eu conférence de presse le lundi matin pour dire « Voilà, on a choisi notre numéro 1, c'est Massa. » Et que t'apprends 2 semaines après que « Ah, on va peut-être choisir un numéro 1. » Ouais. Ah non, vous l'avez fait il y a 2 semaines. Donc voilà, on sent que c'est une écurie qui sait pas quoi faire. C'est vrai que c'est une situation qui est pas facile. On a quand même un champion du monde qui ne sera pas titré cette année. On en a le deuxième pilote qui est en position de gagner. Comment faire? On n'arrive pas à gérer. Il n'y a pas forcément la même autorité qu'il y avait à l'époque de Jean Todt. Donc ouais, moi c'est un énorme carton rouge pour Ferrari de ce point de vue-là. Il faut taper du poing sur la table. Montezemolo qui a souvent le verbe un peu fort pour dire qu'on est à Disneyland, à Singapour, et qu'à Disneyland on sera à Singapour. Peut-être aussi à un moment donné qu'ils réunissent les pilotes, qu'ils tapent vraiment du poing sur la table, qu'ils définissent les lignes claires, parce que voilà, c'est pas possible.
Donc un dernier flop pour Raikkonen. Vraiment tout est allé en eau de boudin. Disons-le, ce week-end.
Ouais.
Pourquoi Raikkonen? Pour ce qui s'est passé à la fin. C'est-à-dire que, alors, la fameuse chicane 10,
il
s'est fait.
Ah, c'était. Il y a eu deux victimes. Il y a eu Fisichella qui s'est tapé la chicane 10 en essai. Mais ouais. C'est vrai qu'en course, ça a été plutôt calme cette chicane. Tout le monde a été prudent. Sauf
Raikkonen qui s'est pris le mur.
Voilà.
Il s'est pris le mur quand même à 3 tours de la fin.
Une habitude en ce moment. Hein.
Ouais, et c'est là que je rejoins ce que tu as dit. C'était pourquoi il s'est pris le mur. C'est parce qu'il a attaqué, parce qu'il y avait Glock devant lui et qu'il voulait dépasser Glock.
Voilà, pourquoi attaquer alors qu'il a que Hamilton va à ce moment-là de la course, il reste 3 tours donc il n'y aura pas de gros changement. Hamilton apparemment assure la 3e place, on va prendre 6 points. Donc McLaren ne reprend que 2 points. Ils en ont 5 d'avance, donc ils repartent avec 3 points d'avance. Et là ils vont repartir, ils sont repartis avec 1 point de retard. Donc c'est vrai que
si Raikkonen finit, Ferrari reste en tête des constructeurs.
On nous a toujours dit en Formule 1, c'est un bon numéro 2, c'est quelqu'un qui assure les points que le leader ne peut pas faire. Voilà,
là, il doit se battre. La situation.
Et là, c'est pas du tout le cas, quoi. Et On a vu d'ailleurs la tête de Raikkonen, on a souvent vu sa tête à la fin des courses au cours des derniers Grands Prix, mais là franchement à la fin de la course, moi il m'a fait mal au cœur.
Ah oui.
Le voir en plein milieu de la chicane, quasiment livide, mais pas vraiment livide de fatigue, mais livide de déception, je pense qu'à ce moment-là, il a compris que le titre c'était mort. Mais il aurait dû le comprendre deux courses avant quoi. Fallait le comprendre à Spa. Fallait qu'à Spa, ils comprennent que le titre était mort et qu'ils disent, voilà, c'est bon, moi, je suis plus dans la course au titre, je me donne à l'équipe. Alors, il l'a dit, mais il l'a pas fait.
Voilà.
Mais en dehors de ça, Raikkonen, il fait pas non plus une mauvaise course, quoi. Il se fait piéger. Il fait deux, trois premiers tours qui sont pas très bons.
Non.
Il remonte assez, assez rapidement.
Il se réveille. Parce qu'en général, ses derniers Grands Prix, il se réveille au bout d'une heure.
Voilà,
il y a certaines mauvaises notes qui ont dit que c'était peut-être le décalage horaire qui fait qu'il s'était réveillé beaucoup plus tôt.
Voilà. mais c'est vrai que moi je trouve qu'il a fait une belle course, je trouve qu'on a retrouvé le Raikkonen flamboyant, et puis malheureusement un peu comme Kubica etc, la pénalité en moins, les stands arrivent, il reste bloqué derrière Massa, il y a peut-être aussi une inquiétude de surchauffe moteur parce qu'il est resté quand même presque 15 secondes à l'arrêt derrière Massa, donc ça lui avait déjà coûté cher à Valence, on lui a peut-être dit de ralentir un peu le rythme en course. Donc, ouais, mauvaise course pour Raikkonen, qui franchement, pour moi, était parti pour gagner. Ouais. Comment je m'avance ? Enfin, pour gagner, si il y avait eu un problème pour Massa. Sinon, il aurait fait le doublé.
Ouais.
Mais je pense que Hamilton pouvait pas résister sur le rythme de course. Hamilton pouvait pas résister. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un Brésilien qui va tuer les espoirs d'un Brésilien pour le titre.
Ouais.
Comme si au Brésil, on voulait pas qu'il y ait un successeur à Senna. Mais en même temps, on veut qu'il y ait un successeur à Senna. C'est le genre de symbole comme ça qu'il faut bah, je pense qu'on a passé voilà
peut-être
donc on non, peut
t'as pas d'avis en plus des choses que j'aurais oubliées
non bah non si j'ai commenté on peut faire peut-être une petite parenthèse pour Bourdais.
Ouais.
La question existentielle pour Bourdais restera pas. On aimerait qu'il reste.
Moi, j'ai l'impression que c'est mal parti, quand même.
Ouais. Quoique, il y a des derniers échos qui laissent à penser que... Moi, je pense, personnellement, Vettel s'en va, Buemi va arriver, c'est quasiment signé.
Ils ont besoin de stabilité, quand même. Hein.
Ils ont dit qu'ils voulaient un duo avec quelqu'un d'expérience. L'homme qui est en face, c'est Takuma Sato.
Ouais.
Voilà, on a Takuma Sato et en face on a Bourdais qui a de l'expérience maintenant en Formule 1, qui sait régler une voiture, même si ce week-end ça n'a pas été le cas. Les progrès qu'a réalisé Toro Rosso, faut aussi les lui attribuer, c'est parce que voilà, Vettel a une bonne voiture, mais c'est aussi parce que Bourdais travaille aussi pour améliorer la voiture. Voilà, donc je pense qu'il a sa place. Et puis bon, on a appris cette semaine à la surprise un peu générale que Heidfeld était confirmé chez BM. Donc ça fait un homme de moins sur les rangs parce qu'on peut penser que Heidfeld aurait intéressé Toro Rosso.
Oh ouais.
On voit mal Toro Rosso engager notre ami Barrichello.
Non.
Il aurait peut-être piqué, mais je pense que ils vont préférer Bourdais. Bourdais, lui au moins n'abandonne pas bêtement.
Non, c'est vrai.
Donc ouais, moi je suis un petit peu optimiste en ce moment. Voilà, même si c'est vrai que on se fait peur en ce moment.
Bah, des trois, il avait trois courses pour faire ses preuves. Là, c'était vraiment la plus mauvaise des trois.
Mais c'est vrai qu'il a été bon sur les deux autres. Même à Monza, où la fatalité fait que son moteur, sa boîte de vitesse le lâche au début. Il a montré qu'il en avait dans le coffre et que voilà. Son problème, c'est qu'il est comparé constamment à Vettel.
Ouais,
et cette année, il tombe à côté de d'un futur champion. Tout le monde le dit, donc dur.
Dur, ouais.
Mais bon, on aura peut-être Grosjean l'année prochaine, Grosjean et Bourdais, ça sent bon. Alors donc, pour le classement de la course, ça nous donne Fernando Alonso premier avec Nico Rosberg et Lewis Hamilton, Timo Glock 4e, Vettel 5e, 6e Nick Heidfeld, David Coulthard 7e, Nakajima 8, Jenson Button 9, Kovalainen 10.
Là, c'est plus décevant quand même.
Voilà, alors Kovalainen, on n'en parle pas, mais bon, en même temps... Pourtant, j'adore ce pilote, mais en même temps, c'est vrai que cette saison, cette fin de saison, il est bon, mais voilà, il est dans l'ombre.
Ouais.
Robert Kubica, 11. Bourdais, 12. Massa, se classe quand même 13e. et heureusement, il se classe devant Fisichella, ce qui fait qu'on a, au classement, faut quand même le signaler, on a quand même, en comptant Kimi Raikkonen, qui abandonne à 3 tours de la fin sur un incident, on a quand même, dans les 4 derniers, on a 4 moteurs Ferrari. Hein, on a Bourdais, Massa, Fisichella, Raikkonen.
Waouh, ça
c'est
fait
assez,
mal. Hein.
Voilà. Dans les autres abandons, on a eu Jarno Trulli, qui a été, enfin moi il m'a fait peur franchement. Il a abandonné, je crois, une heure vingt de course, 1h30 de course, et il avait une tête. J'ai jamais vu ça, moi.
Éprouvant, hein. Ça a été.
Ouais, ça a été. Adrien Sutil, donc, qui a abandonné dans le sillage de Massa.
Ouais.
Massa qui a pas été à droite sur ce coup-là.
Ouais.
Marc Weber qui a abandonné. Oui, c'est vrai, il avait abandonné dans les stands. J'avais pas fait gaffe. Mm. Barrichello, c'est bien le moteur.
Bon.
Et puis Piquet qui fait une dernière place. Mais il abandonne, ouais. C'est le principal. Mm. Qui a signé meilleur tour?
D'après toi.
Alors, je sais
champion
pas.
Champion of meilleur tour.
King Raikkonen.
Super rapide sur un tour. Mais ça serait bien s'il l'était sur 60.
Et pourtant, moi, je peux vous dire, c'est que Shinji est fan de Kimi depuis qu'il est arrivé. Hein,
ouais.
Donc, Shinji, en ce moment, a un petit brin de colère. Un petit brin de déception. Et il faut vous dire, pour que Shinji soit déçu de Raikkonen, il faut vraiment beaucoup.
Non, mais je suis zen. Raikkonen, les années perdent, c'est pas son truc.
Voilà. Il va revenir l'année prochaine.
L'an prochain, champion du monde. Il n'y a que ça de vrai.
Surtout que vu comment ça se dirige, il n'y aura pas de concurrence chez Ferrari, puisqu'il n'y aura pas deux champions du monde. On peut quand même estimer.
Non, cette année non plus. Théoriquement, il n'y avait pas deux champions du monde.
Et donc, oui, Kimi Räikkönen qui signe le meilleur temps. Je crois que c'est son 9e de la saison.
Oui, je ne sais pas si c'est un record. Ou
si je ne me trompe pas, c'est le co-record avec Schumacher et lui-même.
Ah oui, donc
Schumacher, je crois, ça devait être en 2002 ou 2004, et lui, ça devait être en 2005. Je crois qu'il avait signé son record de meilleur tour. Donc voilà, on peut penser que le record sera battu.
Ouais.
Même si le record absolu de Schumacher, je crois que Schumacher a 80 meilleurs tours, un truc dans le genre.
Oui, ça.
Et Räikkönen en a que 35, 36. Donc, il peut battre. Je crois qu'il peut être deuxième en battant. Je sais plus qui.
Prost,
je crois que c'est
41.
C'est Prost. Bah tu vois.
Ouais. Il est à 35 et Prost, il est à 41.
Voilà, vous avez vu, c'était Shinji et de Jean-Louis Moncey. Voilà. C'est mon monsieur statistique.
Räikkönen, il est à 25% par rapport au nombre de Grands Prix.
Ouais.
Un Grand Prix sur 4.
C'est impressionnant. En comptant ses débuts et tout, c'est un bon ratio.
Bon. Schumi, c'est quand même 30%.
Oui, mais voilà, mais ce qui compte, c'est de réussir à faire aussi bien que lui. 30% à la fin, ça serait bien. En fin de carrière, 30%, ça serait chouette.
Ah oui.
Là, il est sur ma statistique. Hein. Je crois que c'est 9 records du tour sur 15 Grands Prix. Donc, ouais, ça va. C'est une bonne moyenne.
Il y en a qui ont été encore plus monstrueux au cours de leur carrière. Hein. Fangio, 45%.
Ouais, mais c'est une autre époque, ça.
Tim Clark, 38%.
Ouais,
Ascari, 37%.
Ouais, mais ça, c'est une autre époque. Avant les années 70, faut pas compter, quoi. Alors, au classement pilote, on a donc Lewis Hamilton avec 84 points, 7 points d'avance sur Felipe Massa.
Vraiment, ces 7 points-là, ils vont être importants.
Ouais, parce que on peut partir du principe que Hamilton a juste à se mettre dans le diffuseur arrière de Massa.
Là, maintenant, Hamilton, il va gérer, hein, 3 courses.
Voilà. Il a déjà montré en plus pendant la course qu'il savait gérer des courses, qu'il savait prendre ce qu'il avait à prendre, donc voilà. En même temps, bon, Massa n'est qu'à 7 points. On sait que 7 points, l'année dernière, Hamilton avait perdu le titre pour un point, alors que Kimi en avait 7 de retard. Mais
est-ce qu'Hamilton fera 2 ans de suite les mêmes erreurs?
Donc voilà, c'est. Mais là, il n'y a que 7 points sur 3 courses, donc il y a toujours du suspense, même si
possible, ouais.
Hamilton est d'ailleurs le seul à progresser dans les 4 premiers.
Ah bah oui, là, forcément.
Voilà, Kimi Räikkönen est sous la menace de Nick Heidfeld, qui a 56 points.
Mm.
Kimi qui en a 57.
À noter quand même qu'il y a Kubica qui est à 64, il est déjà à 20 points.
Oui, mais moi c'est pareil, Kubica n'a pas marqué de points pendant le week-end, donc voilà, c'est. Je pense que à la fois Räikkönen qui est à 27 points et Kubica peuvent dire au revoir au titre.
Ouais,
Räikkönen on espérait, Kubica on en parlait même pas parce que bon, voilà, ça aurait été quand même une énorme surprise.
Ouais, mais bon.
Mais voilà. À noter c'est aussi que Sébastien Vettel progresse encore.
Oui, une place.
Progresse encore, ouais, parce qu'il a 27 points. Alonso, lui fait un bon, hein, pas tant au classement, mais en nombre de points. Il prend large pour s'assurer une bonne 7e place. Bourdais reste 17e. Au classement constructeur, donc.
À noter un truc pour le championnat pilote, c'est que des 8 premiers, il n'y en a qu'un qui n'a pas gagné de course. C'est Vettel.
Ouais.
Hamilton, Massa, Kubica, Räikkönen, Kovalainen, Alonso, Vettel.
C'est vrai. c'est vrai qu'on a beaucoup de vainqueurs cette saison. Je crois que c'est un record depuis 80, 85 ou 86, je crois.
Donc, en général, il y en a 3-4, quoi.
Ouais, ouais, 7 vainqueurs. En plus, je crois que c'est... on a 3 nouveaux vainqueurs. Donc voilà, c'est une bonne saison. Au classement constructeur, donc, on a McLaren qui passe en tête avec 135 points. Ferrari, 134 points, un petit point derrière.
C'est logique. En même temps, il y a une certaine logique. Hein, parce
oui,
que
oui.
Ça fait plusieurs Grands Prix que McLaren revenait à haute vitesse. Ouais, et McLaren, au Grand Prix de France, après le Grand Prix de France, ils avaient 34 points de retard.
Mais c'est vrai que McLaren, en même temps, est dans une position, ils l'ont dit eux-mêmes, assez délicate, parce que ils ont, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont dans le bon tempo, ils ont la meilleure voiture, mais ils ont peur de toucher la voiture.
Oui.
Ils ont peur d'évoluer. Ferrari continue d'évoluer tout le temps, et bon, bah, la voiture est peut-être un peu moins performante, mais elle progresse. Et c'est vrai que, on a entrevu le potentiel de la Ferrari ce week-end. Et on peut espérer peut-être sur les trois prochaines courses que Ferrari soit un peu au-dessus, que ce soit plutôt un moment pour Ferrari et que McLaren cède un peu le pas. On verra bien. Ça peut être un suspense pour la fin de saison.
Sinon, BM à 120 points.
Ouais. Et puis bon bah Renault fait la différence. Hein.
Ah oui, 51.
Ah avec la victoire. L'inconvénient.
5 petits points d'avance sur Toyota.
Voilà. L'inconvénient peut-être de Renault, c'est que ils ne peuvent compter que sur Alonso pour marquer des points.
Oui.
Et puis on a une belle lutte pour la sixième place entre Toro Rosso et Red Bull. Toro Rosso qui s'installe un peu plus devant Red Bull.
Et attention, parce qu'il y a Williams aussi.
Il y a Williams qui est derrière.
Donc 2 points de retard sur Red Bull.
Donc ouais voilà, c'est un championnat qui n'a pas fini de révéler ses secrets. Alors rendez-vous au prochain Grand Prix qui sera donc
le Grand Prix du Japon.
Ouais, sur ce magnifique circuit de
Fuji Speedway, ça va être alors,
voilà. Alors un Grand Prix, on l'a appris aujourd'hui grâce à Lionel Froissart. La météo devrait être clémente puisqu'il y a de la pluie qui est prévue seulement jusqu'à jeudi. Et puis après, on devrait avoir une petite parenthèse assez de beau temps. Même si les températures vont être fraîches.
Ils ont vraiment beaucoup de chance hein, parce que Fuji, c'est le genre de circuit où il y a 400 jours de pluie par an.
Voilà.
C'est-à-dire que soit il pleut, soit il y a de la brume, voire il y a de la pluie avec de la brume.
Un peu comme la saison dernière. Petit pronostic pour la course?
Alors.
Ouais, il faut s'engager, nous on s'engage ici, on est des fous.
Ma raison me dit Hamilton.
Mais ton cœur.
Mon cœur me dit Kimi, parce que quand même ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné.
Moi je dirais ouais Kimi, parce que je pense que voilà, Kimi a compris qu'il était plus dans le titre. Je pense que dans sa tête aussi il est en train de se dire que Massa il a 7 points, c'est bon, c'est fini. Je pense qu'il l'aurait aidé s'il y avait juste eu un ou deux points.
Faut que Massa ait un pépin, parce que si c'est Kimi 1 et Massa 2, on sait très bien ce qui se passera.
Oui, ouais, en même temps, on sait pas trop.
C'est bien tout le problème avec Ferrari en ce moment.
Voilà, mais moi je parierais ouais sur une bataille de Finlandais. Voilà, je verrais bien Kimi Kovalainen Eiki avait fait une très belle course la saison passée. Je pense aussi que Eiki est un petit peu frustré de ses résultats en ce moment. C'est un super pilote. Je pense qu'il peut faire une bonne course et moi je vois bien un duel entre les deux Finlandais. Avec Hamilton et Massa derrière, mais c'est mon pronostic. Je l'assume. Il se réalisera pas, mais je l'assume. Alors, parce qu'il n'est pas tout le temps question non plus que de Formule 1, même si ça fait, je sais pas, ça va faire 50 minutes qu'on parle de F1.
On peut pas vous dire, parce que comme en fait, on enregistre par morceaux, si ça se trouve, vous allez voir un truc d'une heure et demie.
Une espèce de monstre à plusieurs têtes. Bon, bien sûr, je vais majoritairement couper Shinji, hein, tout le monde le comprend. Donc, voilà, comme la parenthèse F1 est terminée, allons nous intéresser un petit peu à d'autres courses. On vous rassure, on va pas parler de NASCAR. Voilà. On vous laisse vous intéresser à NASCAR autrement. On va pas non plus parler d'IRL parce que on ne regarde pas les courses.
Non.
Mais on va vous parler on va peut-être vous parler de temps en temps de Super League Formula. Voilà.
Voyez comment on va vous en parler, hein, de la Super League Formula.
Et puis, cette semaine, on va surtout vous parler de l'A1GP, championnat qu'on qualifie souvent de Jeux Olympiques, de la monoplace. On va laisser Shinji, donc, nous expliquer parce que, voilà, c'est.
Ils appellent ça la The World Cup of Motorsport. Coupe du monde de sport mécanique.
Qu'on a remporté.
On peut être fier, on a remporté la 1GP. Qui est donc une discipline qui ne repose pas sur l'équipe de constructeurs comme en F1, mais sur des pays. Hein. Ce sont des pays qui concourent à la 1GP. Donc il y a une voiture par pays. Donc il y a la voiture de la France, la voiture des États-Unis, la voiture du Brésil, la voiture de Monaco. Cette année, ouais. Il y a Monaco.
Le Liban, la Corée.
Enfin, c'est bien. Hein. Ça. Il y a un vrai intérêt. Il y a une originalité propre à ce championnat qui est très intéressante. Et donc, ils reprenaient cette semaine. Alors, ils auraient dû reprendre.
Il y a 15 jours.
Pas la semaine d'avant. Il y a 15 jours.
Il y a 15 jours à Monza.
C'est au Mugello ou à Monza?
J'ai un doute. C'est peut-être Mugello, ouais.
Et pourquoi ils n'ont pas commencé? Ben parce que ils n'étaient pas prêts. Et d'ailleurs, ils ont commencé ce week-end et ils n'étaient pas tous prêts.
Oui, parce qu'il faut signaler que l'A1GP, donc on est à sa quatrième année, et que cette année, bon, le championnat s'est un peu installé. Le principe du championnat, pour rappeler vite fait, c'est un championnat qui commence donc au mois de septembre et qui se termine au mois de mai. Ça a été créé par, je crois, un consortium de chèques musulmans du Moyen-Orient, et donc ça a été créé pour occuper un peu l'intersaison. Et ça l'occupe bien, ouais, parce qu'il n'y a pas de compétition pendant ce temps-là. Et donc, les premières saisons, c'était majoritairement des grands prix orientaux et Asie, etc. Et puis, ils ont commencé à introduire des grands prix européens pour vraiment faire toute une grosse saison avec, je crois, cette saison, il y a 10 courses.
Il y a 10 courses.
Voilà, il y en avait 11 de prévues avec le Grand Prix d'Italie. Et donc, ils ont décidé cette année, ils ont fait un appel à la candidature pour changer les fournisseurs monoplaces.
Voilà, la société qui va construire, c'est le même matériel pour tout le monde en fait, c'est un fournisseur unique qui construit, qui vend ça en fait à l'organisation, et l'organisation met les véhicules à disposition des équipes.
Voilà, et qui est ce constructeur?
Qui est ce constructeur? Alors, un constructeur pas très connu.
Oui, c'est vrai qu'il est. C'est vrai qu'il est. Il est pas très.
Un constructeur italien. Hein,
Fiat.
Alfa Romeo. À Modène. C'est Modène.
Merde, la vache. Oh la honte.
Ah.
Non, c'est Maranello. Non.
Ah oui, c'est Maranello. Voilà. C'est Ferrari.
Oh la vache.
C'est Ferrari qui construit les châssis, qui construit les moteurs pour la 1GP. Et alors attention, parce que quand on parle de Ferrari, c'est pas un petit modèle ou quelque chose qui vient d'une page blanche. Non, non, non. La base, c'est la F2004.
Qui a
si
été...
vous n'avez pas la F2004, c'est la voiture de Schumacher où l'année où Schumacher a été champion du monde en Belgique, c'est-à-dire...
Non, même pas. Elle a été champion du monde en France,
en
au mois de juillet.
En France.
Ouais.
Début juillet.
Et là, je me gourre et je me fais tuer par tout le monde.
c'est sans doute une des voitures les plus dominatrices, voire la plus dominatrice de l'histoire de la F1.
Et dans un récent dossier sur Ferrari dans F1 Racing, elle a été qualifiée de parmi les 5 plus grandes voitures de Ferrari, et c'est la seule voiture de l'ère Schumacher qui a été présentée. C'est dire à quel point elle a vraiment marqué les esprits.
C'est une des plus grandes voitures de la F1, comme la McLaren de 89,
la Williams
de 92, la Lotus 78 ou 79, je sais plus. Enfin, quelque chose d'impressionnant. Donc, pas un petit modèle.
Évidemment, il n'y a pas de Lada, la meilleure voiture.
Non, il n'y a pas de Lada. en termes de temps, alors, elles n'ont pas exactement les caractéristiques de F1. On est plus au niveau du GP2.
C'est
quand même pas mal du tout.
C'est adapté au GO, c'est adapté, je crois que c'est 650, c'est 600 chevaux, plus un bonus de 50 chevaux. Alors c'est un peu sous la forme d'un push to pass, un peu à la manière de ce qu'on va faire en Formule 1 l'année prochaine, ou à l'américaine. Alors ce qui est très drôle, c'est que vous avez le droit de faire ça 8 fois en course. Mais en fait, ce qu'ils entendent par 8 fois, c'est 8 fois appuyer sur le bouton sans le relâcher. Le pilote qui sent, il peut très bien mettre un scotch sur le bouton avant et puis faire toute la course comme ça. Alors qu'en Champ Car, par exemple, c'était un total de 45 secondes.
C'est un temps, oui. Parfois, c'était un peu plus sur
voilà.
Le circuit.
Donc là, c'est vrai que c'est le petit détail un peu rigolo.
Donc, c'était le premier Grand Prix. Alors, toutes les équipes n'avaient pas reçu de voiture. Ils avaient privilégié, on va dire, les pays émergents en partant du principe que des écuries, par exemple, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, n'ont pas reçu leur voiture parce qu'on a décidé de leur... Oui, ou la Suisse. Alors, la Suisse, ils n'ont pas eu leur voiture, mais ils en ont quand même eu une parce que le Pakistan leur a prêté la voiture.
Oui, parce qu'il faut préciser que c'est un championnat qui a donc qu'on est à sa quatrième année, que la première année, c'est la France qui a gagné. Un championnat qui était amputé de pas mal d'équipes, le premier championnat. Ensuite, c'est l'Allemagne avec Nico Hülkenberg qui avait remporté le championnat. Et que l'année dernière, c'est Nidjani pour la Suisse qui avait remporté le titre en faisant, je crois, toutes les courses. Voilà.
Et donc, les grands pays de sport auto, on leur a donné les voitures au dernier moment parce que, bon, comme justement, ce sont des grands pays de sport auto, on considère qu'ils auront moins besoin de temps pour régler les voitures. Donc, la Suisse, on leur a prêté parce que, comme c'est quand même les titre fait s'il pouvait pas rouler.
En fait, la Suisse n'avait pas de voiture. Ils ont récupéré celle du Pakistan, je crois, parce que le Pakistan leur a donné la voiture, parce que ils leur ont prêté la voiture pour que la Suisse fasse les réglages et prépare la voiture. Comme ça, le Pakistan, tout au long de l'année, a une voiture préparée par des champions du monde. Tout comme la France, l'équipe de France soutient techniquement l'équipe d'Afrique du Sud. Donc j'ai ta réponse, c'est bien le Mugello.
C'est bien le Mugello, voilà. D'accord.
Alors au calendrier, il y a donc 11 courses, il y a le Mugello.
Plus que 10.
Plus que 10,
Le Mugello est parti à la trappe.
Voilà, plus que 10. Il y avait Zandvoort ce week-end.
Ouais.
Apparemment c'est pas dans l'ordre. Il y a des circuits comme Brno, il y a Sepang, il y a Zhuhai en Chine, il y a Taupo en Nouvelle-Zélande, il y a Sydney en Australie. Durban en Afrique du Sud, Mexico City au Mexique et Shanghai en Chine.
Et une piste au Brésil.
Et une piste au Brésil.
Qui n'a pas encore été fixée. Il y a la date qui est fixée, on sait que c'est au Brésil, mais on ne sait pas encore quelle piste.
D'accord.
La France, donc grand pays de sport auto, ils les ont eu parmi les derniers. Eux, déjà, ils ont eu de la chance, ils ont eu la voiture.
Voilà. 45 minutes avant le début du week-end, des qualifs.
Ils l'ont eu le matin.
Voilà.
Ils l'ont eu dans la matinée, et en gros, ils ont démarré le moteur 45 minutes avant les premières qualifs.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en gros, les qualifs, ils ont servi de premier roulage à la voiture. la voiture n'avait même pas ses couleurs. C'est-à-dire qu'elle était couleur carbone.
Oui, oui, c'est...
Avec deux, trois collants bleu et rouge, histoire qu'on voit bien quand même que c'est la France.
Mais d'ailleurs, tous ceux qui ont pu regarder ce championnat sur AB Moteur et NT1, qui ont pu le découvrir, c'est vrai que au départ ils ont dû dire oh là, elles sont trop moches les voitures, mais c'est vrai que les voitures sont franchement très belles avec les drapeaux des pays, oui, les voitures sont franchement splendides.
Et d'ailleurs tu fais bien de le préciser pour les 2-3 personnes qui ont écouté notre émission, c'est que ça passe sur NT1 sur la TNT.
Voilà, c'est-à-dire que sur ça passe les qualifications et la première course, parce qu'il y a deux courses, il y a une course sprint qui dure 20 minutes et il y a une course longue qui dure 70 minutes je crois. Et donc, les qualifications et la course sprint sont diffusées sur AB Moteur, et la course longue est diffusée sur NT1.
Donc c'est toujours sympa, pendant longtemps on n'avait que la F1,
voilà, on a au moins chose. NT. Et en plus ils ont des bons commentateurs, Patanjali et Philippe Chéreau, qui sont de très bons commentateurs, qui expliquent vraiment très bien comment ça fonctionne, quand ils savent eux-mêmes comment ça fonctionne.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ils commentent la NASCAR depuis 10 ans en direct tous les dimanches soirs, ils commentaient le Champ Car, ils commentaient l'IndyCar, donc ils s'y connaissent, et c'est franchement mieux que ce qu'on a en Super League.
Et donc la France, elle se lance dans ses qualifications, alors est-ce qu'elle aurait pu faire un meilleur résultat en qualif? C'est pas évident.
La France s'est qualifiée, je crois, 11e. Et alors, faut revenir sur une particularité des voitures, c'est que jusque là, comme ils ont changé de voiture, il y a des choses qui changent dans la voiture. Et notamment, comme on est chez Ferrari, la transmission des palettes des vitesses au volant, ça n'existait pas avant. On a un GP, donc les pilotes, certains pilotes ont dû apprendre à utiliser cette transmission au volant. Et donc, comme il y a un changement de vitesse au volant, on a récupéré la pédale de frein à gauche. Et certains pilotes n'étaient plus habitués, notamment le français Loïc Duval n'était plus habitué à freiner du pied gauche. Donc ça, apparemment, Loïc Duval, ça l'a un petit peu embêté en qualif. Et alors qu'il était parti,
il tient un bon temps et il est sorti.
Oui, il faisait le troisième, il est sorti, il a fini 11e. Mais en partant 11e, il a quand même réussi à faire dans la première course
une troisième place.
Une troisième place, voilà.
C'est énorme, hein. C'est pas énorme, c'est super bien. En plus, c'est la sprint race, donc sur 20 minutes seulement.
Voilà, sur 20 minutes, c'est. Et puis en plus, dans des conditions, c'est vrai qu'à Zandvoort ce week-end, il flottait, hein, faut dire ce qu'il est. Hein.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est la Malaisie qui s'est imposée, je crois.
Oui, la Malaisie, c'était la première victoire pour la Malaisie. Superbe course, hein, rien à dire. Surtout dans des conditions comme ça, c'est toujours pas mal.
Et la Malaisie avec Feroz Fawzi, donc les fans de Formule 1 connaissent un petit peu parce que c'est un nom qui circule de temps en temps. Et puis la Malaisie devant la Nouvelle-Zélande, je crois.
C'est ça.
Voilà, avec un petit jeune qui fait du Masters, du Formula Master, Bamber, c'est ça?
Ouais, Bamber, le bambin.
Voilà, Bambino. Et donc après, en deuxième course,
Alors, il faut dire que la grille...
n'est pas inversée.
Donc, la deuxième course, elle n'est pas inversée.
Ça, c'est un truc très bien.
Elle était en fonction du résultat de la première. Donc, le Français, il est parti troisième. Et là, non seulement ça s'est bien passé, mais ça s'est encore mieux passé. Parce que la Marseillaise, eh ben, on l'a entendu, elle a un GP.
Non, on l'a pas entendu.
Il a fini premier.
On l'a presque entendu, mais on l'a pas entendu. C'est pas vrai.
Ouais,
parce que sur NT1, il coupe. C'est NT1, il coupe. Mais c'est vrai que, ouais, c'est une belle course qu'il a bien, menée.
Il était troisième. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors des premiers arrêts au stand, il y a deux arrêts au stand obligatoires, les deux équipes qui étaient devant, donc c'était Malaisie et Nouvelle-Zélande, si je me trompe pas, ont eu un problème, en plus, au même endroit, c'est-à-dire à la roue arrière.
La roue arrière, ouais. Non, ces fameux ravitaillements qui, franchement, valent le coup. Et moi, je dis, la Formule 1 doit s'en inspirer.
Ils ont perdu du temps. Et les Français non, en plus
ils ont été très calmes.
Il a décalé un peu son.
Voilà, il a décalé l'avance. Ils ont été très calmes. Ils se sont pas précipités. Ils ont pas couru. Ils ont. Voilà, ça a été un bon résultat. Même à la fin, je crois qu'il y a une neutralisation à la fin. Un petit imbroglio sur le nombre de tours qui reste et voilà. Donc c'est vrai que c'était. Moi j'ai vu que la deuxième course et c'était une belle course.
Ouais. Ça faisait très plaisir. Comme toi, je suppose.
Oui, bah,
c'était la première fois que je regardais.
On connaissait, mais c'est la première fois qu'on regardait. Donc, on vous conseille à tous de vous mettre de temps en temps sur NT1 pour suivre la 1GP. Donc, voilà, c'était cette première édition du service après-vente de la Formule 1. Ça commence à rentrer, ce titre. Hein. On a eu beaucoup de mal à le trouver. Et ça commence à rentrer.
On enregistre le générique.
Ouais, voilà. Ce petit générique que vous avez entendu il y a à peu près 1h15, on va le faire bientôt. Hein, c'est incroyable. La technologie, c'est franchement.
C'est génial.
Donc, en espérant que cette nouvelle formule revisitée et à deux vous ait plu à vous, en vous donnant rendez-vous donc dans quelques jours, puisque le Grand Prix du Japon. Je l'avais oublié celui-là. Ah non, merde. Mais pourquoi tu me rappelles ce genre de souvenir? Donc. Pour un grand prix du Japon qu'on va suivre, je pense, avec plaisir quand même, puisque on est un peu fan du Japon.
C'est pas mal.
Voilà, donc quand même, c'est le grand prix presque à domicile. Pour des raisons différentes, mais c'est un peu notre grand prix de France à nous. Donc voilà, en attendant, on vous donne aussi rendez-vous sur différents sites, que ce soit le blog inutile de Shinji, que ce soit la Dartosphère, que ce soit aussi un petit coucou à Enzo, on vous conseille vivement d'aller voir ses dessins sur enzof1.com, et notamment ces magnifiques textes du petit Dino, qui est franchement magnifique auteur.
Ah oui.
Très drôle, sexy, charmant, ouais, c'est moi. Donc voilà, merci à toi Shinji pour cette première émission.
Merci à toi.
En espérant te retrouver donc la semaine prochaine pour le volume 2.
Moi aussi, j'espère me retrouver.
Allez, salut à tous.
Salut à tous.
Service après-vente de la F1.